Salut tout le monde. Comment ça va en ce quelle journée? Je ne sais pas. Jeudi? Non, déjà jeudi? C'est pas possible. Jeudi. 31 juillet. Le croisement imminent des juilletistes et des aoûtiens. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui sont pas en vacances. Petite voix, t'as fait un karaoké? Non, j'ai diminué le café. Je suis moins caféiné. Coucou Zem, je suis sollicité de tous bords pour du taf.
Jolie nouvelle.
Merci Golananas qui a été le premier à sub ce matin. Merci pour le troisième mois. Serendipity 74. C'est vrai que ça faisait longtemps. Demain, anniversaire de Romy Bouffe. Quel âge, mon ami? Je dis, c'est fou. Ce mois de juillet est passé à une vitesse. Voilà. Est-ce que c'est le stream quotidien d'Orfus Press? Est-ce que c'est la Corse? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est les vacances en famille? Je ne sais pas, mais c'est passé comme ça, quoi. Pourquoi certaines heures sont très longues et d'autres beaucoup plus courtes? Pourquoi il y a des mois de vacances qui passent comme ça, et des semaines de boulot qui sont interminables. Ha ! La relativité du temps. 27 ans déjà ? Joli. Salut Flamme d'Argent, bon courage pour le travail. En vacances ce soir, belle journée. Remets la musique, je me sers une vodka Red Bull. C'est vrai que c'était une musique à vodka Red Bull. Ouais. Qui est le drapeau en berne, là ? Sois un peu fier. Ouais. Voilà, quand même. Voilà. C'est vrai que c'est une musique à vodka Red Bull. Ni juilletiste ni autiste, septembriste, écoutez le moule-bite. Le mois le plus long, c'est novembre. Ah ouais, ouais. Juillet passe très vite pour moi à cause du Tour de France. Ouais. Merci beaucoup, Joe's on Life. Merci pour ton message qui met du baume au cœur. Déjà 30 ans et papa, le temps passe trop vite. Sweet Husky, bravo. GG à toute la famille. Juilletiste, déjà fini les vacances pour Étienne. Vive la Corse du côté de Chads, on est d'accord. À des temps vacances demain, ça fait plaisir. Aruka. Ah. Je suis, dé... Je me suis déjà tapé des vacances en amoureux. J'ai encore esquivé la fameuse « As-tu marié mon fils ?» de la belle maman. As-tu marié mon fils ?» Déjà de retour au taf depuis 2 semaines, Sugar. Ça manque un peu de jeux vidéo sur cette chaîne en ce moment. Hein. Hier après-midi, vite fait, entre deux trucs, j'ai lancé du Deathmatch de Valo. Hors live. Hors stream. Ouais. C'était pas mauvais, c'était pas fou non plus. Par contre, j'ai fait un réglage sur le micro, enfin sur le son. En fait, certains m'avaient indiqué que le son était un peu faible ces derniers jours. Je crois que j'ai trouvé le doute d'où ça vient. Oui, hors live. Je crois que je suis piqué. Ouais. Donc oui, très peu de jeux vidéo ce mois de juillet parce que la priorité a été donnée à la revue de presse et le reste de la journée à la famille. On est en vacances. Voilà. Donc en revanche, arrive avec la fin de ce mois de juillet, la fin de cette semaine, la fin des vacances en Corse. On ramène le setup à Paris, on réinstalle le setup parisien et ça va streamer par contre au moins 2 fois par jour à partir de la semaine prochaine puisqu'il y aura la revue de presse le matin toujours et du gaming en plus puisque les enfants seront en vacances. Donc là, je ne serai qu'à vous. Et à mon épouse le soir. D'auto au taf après une semaine de festival en tant que bénévole, le changement est dur. C'était quel festival K2 ? C'est quel festival ? Ah. J'ai eu le droit à 4 jours de congé car mon collègue est au prix. J'ai eu le droit à 4 jours de congé car mon collègue est au prix. À la solidarité ! À l'enfer ! Putain ! Le Paléo, je connais ! Festival en Suisse, j'ai entendu parler de ce festival. Merci Arthur, la silure. Rapport avec le poisson ou pas ? Merci pour le soutien. T'as joué à Far Cry, ça m'émue, le 3 spécialement. Far Cry, trailer, Far Cry 3. On va voir. C'est un jeu Ubisoft ? C'est bien ça ou pas ? C'est-il bien ça ? Est-ce que tu connais l'application Caféine ? Ça répertorie beaucoup de journaux dans un seul endroit. Oui, je connais, j'ai pratiqué, mais c'est pas très intéressant pour moi. D'abord parce que tous les journaux n'y sont pas. Les journaux importants que je lis, dont j'ai besoin, n'y sont pas. Hein, Le Monde n'a jamais été, par exemple, dans Caféine et d'autres journaux très importants pour moi. Première chose. Ensuite, pour l'avoir pratiqué, l'arrivée des journaux en ligne est très aléatoire. Un jour, tu les as à 6h du matin, donc tu peux bosser. Un jour, c'est à 7h, le lendemain, c'est 10h. Waouh ! Et puis, vaut mieux donner directement ton argent aux journaux plutôt qu'à une plateforme qui prend sa petite com au passage. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, Caféine n'était pas un outil pertinent pour moi. Et Caféine ou autre agrégateur d'abonnement de journaux. Et du coup, je suis abonné directement à tous les journaux parce que moi, j'ai besoin d'avoir tous les matins à 5h tous les journaux, quoi qu'il arrive. Et c'est pas au pif, au maître. T'y vois ? Hein ? Et puis je buvais assez de café, ouais. Far Cry, c'est vraiment bien ? Ok, let's go. Par contre, il y a le pass de la Bibliothèque nationale de France, qui est très bien, notamment pour les étudiants. Ouais, allez voir de ce côté-là. À la BNF, vous êtes sur le site de la BNF. Là, il y a un truc, ouais. Si vous êtes étudiant, notamment. YouTube. Far Cry 3. Vous me le conseillez ? Peggy 18, ça commence bien. Not yet. Here we are. Good. Jace, look at this place. Unbelievable. Paradise. Hey, Nikki, where are we again? Island's not on the map. Let's hit it. Do some exploring. And there's our boat. Boat. Where did you find this guy? Hey, Doug, check this out. Are those real? You getting this? You recording? Oh, yeah. My man Jason brings the heat. Hey, put them down. Go now. Go. Okay, we got it. We're leaving. Let's go, man. What a dick. Okay. But that's the last one. Cheers, guys. Cheers. Je fais une pause pour vous dire que ce jeu est très intrigant. C'est un film, là, je... Quel est ce jeu ? Je n'ai jamais entendu parler de Far Cry. Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouh, ça va se lancer ça.
Doug, that's what I'm talking about.
Déjà mes soirées.
Shoot me, motherfucker, come on!
Oh, fuck. I've never seen a bigger bunch of pussies in my life. Hey, listen, mama.
The bitch is worth a lot of money, but you and your fucking asshole friend, you're not even worth a bullet.
Come on, man, what are you...
Attends, on va aller voir sur... Waouh. Mais 2012, mais... Un classique à découvrir absolument. Ok. Série de jeux vidéo de tir à la première personne développée par Crytek en Allemagne, édité par Ubisoft. Se compose de Far Cry 2004, Far Cry 2, 2008, Far Cry 3, qu'on vient de voir, 3, 13, 13, 13, 3, 4, enfin bref, le 3. Far Cry 3, absolument, faut le faire. Après, il y a le 4, le 5, le 6. Et vous me dites qu'il faut faire plutôt le 3 avec des spin-offs. Le dernier, je vois, c'est 2021. C'est un clic sur tout ce qui bouge dans un couloir avec un scénario. Quand Ubisoft savait encore faire des bons jeux. Le 3, c'est le meilleur. Let's go. Ok. Il y a Metal Gear 5 aussi, que vous m'avez conseillé. Alors attends, Far Cry 3. Ok. Le 7 serait pour la fin de l'année. Ok. J'ai encore découvert quelque chose. Vous savez quoi? On va annuler la revue de presse. Je vais aller sur Steam. Je vais télécharger Far Cry. On s'en fout de l'actu là. On s'en fout de la politique, on s'en fout de l'actualité internationale, on s'en fout de l'environnement, on s'en fout de la pistoche. Il y a Léon Marchand qui a battu un record du monde là. Rien à foutre. Let's go. Far Cry. Far Cry 3. Mais non, on ne peut pas faire ça. Même si j'ai très envie. Merci beaucoup Arthur Not the King pour le Prime. Merci John 2 pour le 16e mois. Merci Lady Chama pour le Prime. Merci Arthur Lassilure. Merci Arthur Golan. Merci aux 5 premiers qui ont somme ce matin. J'ai besoin d'interviews de presse pour préparer mes cours et montrer à mes élèves. Ok, qu'à lire. Far Cry 3, ce sera pour une Ubisoft pas Steam. Ah, bon, c'est pas grave. Bon, ça marche aussi. J'ai aussi un compte Ubisoft. J'ai tous les comptes qu'il faut. Je profite pour te dire bonjour qu'il y a aussi le reveal du online de Battlefield aujourd'hui. Ça fait partie des classiques en termes de solo aussi. Ok, Battlefield. Salut Sugar, bonne réunion. Oui, Léon Marchand qui a battu un record du monde. C'est la une du Parisien, c'est la une de l'équipe. Ok. Et il y a Far Cry Primal, très bonne aventure dans la préhistoire aussi. Ah, Primal. Ok, je note. Plus Primal. Enfin, Primal. Bon, bref. Primal, quoi. Ok. Incroyable. Merci, Le Rage Max. Merci Type 006, merci Steve G, THR, Merci à tous les trois pour les soutiens. C'est sérieux le OnlyFans? Ouais, j'ai un OnlyFans pour l'exclamation OF.
Oh, c'est très soft, hein. On est sur de l'érotisme soft. Hein. On est sur de la dentelle, de la transparence, de la courbe suggérée. On n'est pas... voilà. Bon, comme je le lève un peu le pied sur la télé, il faut bien que... Hein. Il y a des yep. Bah, pourquoi MDR c'est très respectable, hein, la photo de charme. Il y a quelques vidéos coquines quand même. Oh, coquine, diesel, coquine, c'est un grand mot. C'est un grand mot, hein. Coquine. Qu'est-ce que j'ai là, moi? Un petit chiffon pour nettoyer les ordinateurs. Ah, pas mal, ça.
Far Cry 3 est sur Steam. Let's go! Les panards posés sur la télé, j'adore. Très photogénique. Bah ouais. Il y a de la tech dans la tuyauterie. Pas trop de tech. Mais parfois, les actus, elles viennent du chat. Et le chat me dit « Hey, t'as pas vu cette actu ?» Et on va voir. Bon. Du coup, c'est Far Cry ce matin? Non, c'est la revue de presse. C'est l'actu. Ah, c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis de la communauté. Ok, certes, Samuel, tu as été happé par ta passion pour la découverte et l'exploration de l'univers du gaming. Avec de plein de nouveaux jeux que tu découvres, mais il faut que tu n'oublies pas tes fondamentaux. Dans tes fondamentaux, il y a l'actualité. Voilà. Et on a fait des revues de presse tous les matins du mois de juillet, du lundi au vendredi. Et ce sera pareil en août. Et ce sera pareil en septembre. Et en octobre. Et en novembre. Voilà. Et aucun jeu vidéo, aussi séduisant soit-il, et aucun stream de ouf, ne me détournera de ça. Voilà. 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 Tiens, Samuel, voilà. Tu as vu la BA de Clair Obscur? Ah bah j'y ai joué. Alors on me le reproche beaucoup, je termine rarement les jeux que je lance. Il y a trop de jeux à découvrir. Si je m'amusais à finir les jeux que je lance, au rythme où je joue, je jouerais à deux jeux par an. Or il y a trop de jeux. Il y a trop de jeux à découvrir dans le passé, il y a trop de jeux à découvrir dans le présent, il y a trop de jeux à découvrir dans le futur. Non, on dit « tiens, tigre ». Ok. Non, on dit « tiens, tigre ». Ok. C'est quoi ce raid de fou? Merci, Katniss. Mais merci. On se follow déjà? C'est quoi ce raid de fou? Mais je te follow pas. Attendez, allons voir la chaîne qui vient de nous raid. Très gentil raid. On était en train de s'entraîner sur « tiens, tigre ». C'est voilà, je te follow désormais. Est-ce que je prononce bien? Katniss. Voilà, Katniss. Voilà, donc une streameuse, bienvenue, bio. Tout de suite, on va voir quelle est la proposition en live toutes les nuits pour mes insomniaques. Mais quelle heure il est? 10h06. Mais là, tu as streamé toute la nuit? Attends, tu as streamé toute la nuit? Incroyable. Et alors, le contenu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? La commu qui vient de nous rejoindre, d'ailleurs. Racontez-moi, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette jolie chaîne? Qu'on en fasse un peu la publicité. Elle chante et elle danse. Ok, très bien. Moi aussi, c'est ma passion. Je fais bientôt danse avec les stars, enfin dans mes rêves. Voilà, je vais apprendre à chanter dans mes rêves et je vais apprendre à danser aussi. Voilà, dans mes rêves, dans les cauchemars de tous mes professeurs qui vont arriver. Elle chante, elle danse, elle discute beaucoup aussi. Elle joue à Valorant aussi. Bon, ok, on a tellement de points communs. Elle est platine. Non, elle est platine 3 sur Valorant. Non, sérieusement? Oh non, me dites pas ça. J'ai vu quelqu'un qui était très jeune, là. Moi, j'ai 95 ans, je suis bronze 2, quoi. Non, non, sérieux? Elle est vraiment platine 3? Ah ouais, là, c'est du coup, on n'est plus dans le point commun, là. On joue au même jeu, mais pas au même niveau, quoi. Oh, je suis très impressionné. Les rangs platine 3? Mais pourquoi, moi, je suis stuck bronze? Pourquoi je suis... Pff, arrêtez de vous moquer de moi. Bon, écoute, maintenant, je follow ta chaîne et j'espère que je pourrai te rendre ce raid dans les prochains jours. Donc, discussion, chant, danse, valo. Ok, le programme est magnifique. Merci encore pour ton raid. Katniss, et j'espère que je prononce bien du coup. Tu débutes aussi? Oui, enfin, quand même, ça fait un an et demi que je suis stuck quand même. Hein. Bon, en tout cas, c'est adorable. Merci pour le raid. Trop fort, Samuel. Le platine arrive bientôt pour toi sur Valo. Pff. Tu veux laisser une chance aux autres, Samuel? Tiens un tigre. Tiens un tigre. Il est long le début là? Non. 20 minutes d'intro. Nous, c'est une demi-heure minimum, 30 minutes. On peut pousser jusqu'à une heure et quart d'introduction. T'es sur Twitch, hein? T'es pas sur M6 ou sur BFM ou que sais-je, hein? Non, on prend le temps ici. On se parle, on se fait la bise. Ça va le sang? Ça va les cousins, la famille, tout ça? Bien, bien. La santé, voilà, tant que la santé, voilà, tout ça. Oh, oh. Salut, princesse Plenosas, merci pour ton message. Enfin. Plus c'est long, plus c'est bon. Ok, d'accord, ok. Ok. On se renifle les fesses? Non. On se dit bonjour, tout comme ça, tranquille, quoi. Tu vas rien avec le trailer de la nouvelle saison de Malcolm? Non. J'ai jamais regardé Malcolm, j'ai un peu honte. On parle de quoi aujourd'hui? Je vais vous faire le sommaire dans un instant. Que me dit Maël? Je suis justement ici pour les longues... Je vous le coupe. Comme vous râlez, je vous le coupe. Très léger. Est-ce qu'Emilien pourrait participer à Question pour un champion ou est-ce qu'il a une clause qui interdit la star des autres jeux d'aller sur d'autres chaînes? Emilien a déjà joué à Question pour un champion il y a très longtemps, il était jeune. Voilà, j'espère qu'il rejouera un jour. Oui. Emilien, j'aimerais bien streamer avec lui aujourd'hui parce que c'est un streamer aussi. Je l'ai pas contacté encore. J'ai vu un clip sur TikTok rigolo où il disait il a vraiment un sourire radieux, ce garçon. Il est je trouve qu'il irradie une espèce de tranquillité, de sérénité, de paix, PAX, assez étonnante. Et j'ai vu un clip où il dit ouais, je serais trop content de que Samuel Tien me fasse découvrir Valo. Je sais qu'il est sur Twitch. Ouais. Donc mais je sais pas comment le contacter, j'ai pas son tel. Salut Hugo, le malgache chinois, joli pseudo. C'est vrai qu'il est assez apaisant, je trouve, et apaisé. Merci Barbouillef pour le 9e mois d'abonnement. Merci pour ton message. Demande à étoile. Ouais, mais je veux pas. J'aime pas trop déranger les gens, moi. J'aime bien me débrouiller par moi-même. Je sais que Rayou a son 06. Ça, je sais, évidemment. Mais j'aime pas trop déranger les gens, quoi. Demande à étoile le pont. C'est vrai qu'étoile est un pont. Certains, leur surnom, c'est la poutre. Et lui, c'est le pont. On reste toujours dans l'architecture. Ozzy Event, il viendra aussi, je pense, avec étoile faire un coucou. Ah bah, ce sera l'occasion de le voir. Ah bah voilà, je le vois, Ozzy Event. J'ai le contact, me dit Yord. Ah oui, bah, tu me dis Rayou, mais moi aussi, j'ai le contact de Rayou, mon chouchou. Si tu demandes, la commune lui demandera pour toi, t'inquiète. Ok. Étoile est un pont, bien sûr, étoile est un pont. Étoile, il fait le pont. Bon, après. Hop. Viens à Madagascar un jour, papa. Trop bien, Madagascar. Ah ouais, avec plaisir, je connais pas Madagascar. Tu refais le The Event cette année? Oui, j'ai la chance d'avoir été invité à nouveau par Zera en présentiel sur place. Et je suis parmi les 47 streamers en présentiel sur place et je suis très content. D'ailleurs, on va peut-être. Je vais vous faire le sommaire tout de suite pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dans l'actualité. Puis après, on fera peut-être un petit tour par le The Event parce que j'ai vu que Zera venait de publier une charte. C'est tout nouveau. Une charte à laquelle tous les participants en distanciel ou en présentiel au The Event devaient souscrire. S'inscrire dans le cadre de cette charte, une charte de valeur. Et c'est drôle parce qu'on en parlait hier, et on parlait hier des petites polémiques habituelles à propos de deux ou trois personnalités qui s'étaient inscrites en distanciel et qui, d'après ce que j'ai compris, se sont retirées d'ailleurs, ne sont plus participants-participantes. Et quelqu'un, à un moment dans le chat, m'a dit « Ah, ce serait bien qu'il y ait une charte de comportement pendant le The Event à laquelle tous les participants devraient souscrire. » Je ne sais plus qui m'avait dit ça hier. Et j'ai dit, bonne idée en vrai. Et le lendemain, bim, charte. Voilà. MMG, c'était toi? Bah, je ne sais pas si c'était toi, mais c'était... Ouais. Ouais. Donc, on va aller voir cette charte juste après le sommaire. Je trouve que c'est un joli move. En vrai. Ouais. Voilà. Ah bah, rien à voir avec le fait qu'on en ait parlé. Hein. Je pense que c'était dans les tuyaux. Ah oui, attendez. Loin de moi l'idée de penser que parce qu'on en a parlé, et Zera du coup a eu... Non. La charte de moi, je suis allé la voir, elle était super développée, super bien construite. Manifestement, ce truc était prêt depuis un bon moment déjà. Et je pense que Zera devait y penser depuis un bon moment, vu le degré de préparation de ce texte. Et qu'à la lumière des petites polémiques qui sont sorties, là, il s'est dit, allez, on y va, quoi. Clairement.
J'espère que je ne vais pas laisser penser qu'on y était pour quelque chose. Zera n'a pas besoin de moi. Ce qui est drôle, entre guillemets, nous dit Nuno avec ses polémiques, c'est que des gens complètement inconnus et qui streament devant 50 personnes tous les soirs se retrouvent mis dans la lumière sur les réseaux sociaux et se retrouvent avec une pub incroyable. C'est vrai. Tu as raison. Hugo, le malgache chinois, me dit que Madagascar est le plus beau pays du monde. Il y a de tout. Bah, écoute, c'est loin, non, par contre. Peux-tu regarder la charte? Je suis intrigué. Oui, c'est prévu, on va faire ça, ouais. Je suis allé la lire hier. Entre hier on est je vais très peu à la plage, j'ai une peau qui bronze pas. Et hier je suis allé un peu à la plage parce que je sais que ça fait plaisir aux enfants. On s'est mis dans les vagues et Solal a une petite planche de morel hein, et en fait je le lançais dans les mousses et il s'est refait, c'était trop mignon. Et entre deux trucs comme ça, bah, je suis allé lire la charte et je trouve ça plutôt pas mal quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau best-of. Ah oui, il y a un nouveau best-of. Alexandra, t'as raison, faut que je mette à jour. Mathieu a fait un nouveau best-of. Il y a des vagues en Méditerranée ? Ouais. Alors, c'est pas les vagues de l'océan, mais il y a des vagues, ouais. J'ai même vu un mec avec une planche de surf et il y a quelques jours. Il attendait. Non, mais oui, mais je crois qu'il y a des surfeurs en Méditerranée. En vrai, il y a des spots, je pense, selon la qualité du fond. Vous savez, la vague, elle dépend de plein de choses. Elle dépend de la houle, elle dépend aussi du fond. Sandbreak, ou je sais plus, il y a des trucs, selon c'est du sable, ou de la roche, ou des cailloux, bref. Et puis aussi la façon dont le plancher en fait remonte. Tu vois. Et en fait, tout ça joue. Et donc, je pense qu'en Méditerranée, il y a des spots de surf, en fait. Voilà. Pour une fois, peut-on parler de la Palestine ? Anavaël, c'est une blague ou pas ? C'est une vanne. T'as pas mis de kappa, c'est pour ça. Quand vous faites une blague ratée, mettez un kappa comme ça. C'est une blague, Annabelle, ou pas ? Il n'y a pas de kappa. Refais-le avec un kappa, en vrai. Non, par équipe, un kappa. Quels sont tes projets à venir à court et long terme ? Vivre ma meilleure vie sur Twitch. Être le meilleur mari possible pour mon épouse. Être le meilleur papa possible pour mes enfants. Être le meilleur streamer possible pour ma commu. Me maintenir en forme. Faire des dingueries. Être là où on ne m'attend pas. Voilà. Pas s'en croûter. Faire des nouveaux trucs. Voilà. Ça, c'est ma life. Ah oui, président de la République en 2027 aussi. Voilà. Rester enfant pour jouer plus, ouais. Devenir, passer silver sur Valo, après, et puis passer gold aussi. Ton crâne est luisant, ouais, je suis très lumineux, Chimera 91, merci beaucoup, je suis un garçon très lumineux. Je suis assez brillant même, on peut dire. C'est quoi ton meilleur conseil pour passer en croûté ? Bah, enlever la croûte. Quand t'as une petite croûte, tu l'enlèves. Bah, ça t'évite de t'encrouter. Voilà, c'est une hygiène au quotidien, hein. Faut inspecter tout ton corps. Comme ça. Et à la moindre petite croûte, tu l'enlèves, hop, et tu ça, tu ne t'encroûtes pas. Oui. Pleutre Chalala, premier degré Samuel, je ne parle jamais sur ce chat, mais présente-toi, s'il te plaît. Ok. Samuel Etienne, 22 ans, beau gosse, en tout cas, c'est ce que les gens disent. Voilà. J'ai fait Polytechnique, Léna. Je suis ingénieur en IA. Je suis aussi recordman du monde de triathlon. Voilà. Je suis platine sur Valo. Je fais 1m89. Que te dire encore ? Bon, je crois qu'on a dit l'essentiel. moi, Tib, je suis nouveau sur le stream. C'est vrai, c'est ton premier message, je le vois. Et petite question, pourquoi cette réaction sur la Palestine ? Parce qu'il en discute souvent ou parce qu'il ne veut pas en discuter ? Parce que j'en parle tous les matins, tous les jours, pendant des heures. Voilà. Et que je suis, je pense, le streamer de France qui en parle le plus. Voilà. Tout simplement, c'est pour ça que je me demandais à quoi ressemblait cette question sans kappa. Après, vous avez le droit de venir pour la première fois sur cette chaîne aussi.
Ah oui, ancien Yakuza. Non, mais ça c'est une rumeur, ça. On t'appelle la poutre d'Ajaccio. Voilà! Bon, je vous fais un sommaire, les beaux gosses. Je vous dis ce qu'il y a dans l'actualité ce matin. Il n'y a pas 1000 articles. Voilà, on met des trucs intéressants quand même. Est-ce que j'ai votre yes? Est-ce que j'ai votre go? Est-ce que j'ai. Give me a why! Give me a. I! Non? C'est quoi un kappa? C'est un petit bonhomme qui est censé te faire comprendre que c'est du second degré. C'est ça un kappa. C'est ça un kappa. Voilà, bah, les gens te montrent. C'est quand tu fais une vanne et que t'es pas sûr que tout le monde va comprendre, parce qu'il n'y a pas le ton à l'écrit, tu mets un kappa pour faire comprendre que c'est du second degré. Ça t'évite de te faire agresser par les autres. En disant, ouais, t'es complètement con. Ah oui, mais c'était de la. Oui, mais c'était une vanne. Ouais, bah mets un kappa! Voilà. Non, pas un kappa. Un kappa, c'est pour faire des trucs qui montent en bois. Et voilà. Donc la question sur la Palestine tout à l'heure, on sait toujours pas d'ailleurs si c'était une vanne ou pas d'ailleurs. Non, pas une kippa, bordel! Arrête de vouloir foutre le feu là! Merci Barbouillef pour le 9e mois. Ça a été le rendez-vous hier? Ouais, très intéressant. Moi j'avais un rendez-vous pro hier pour parler d'IA. Merci encore Barbouillef. C'était une vanne? Ah ouais, bah, il manquait le kappa du coup. Ah, Annavaël a répondu. Alors, Annavaël a répondu. La personne qui disait, mais je sais pas quoi que. Est-ce que ça va enfin parler de la Palestine, je sais pas quoi. Oui, je suis un troll descendant direct de Trundle. Ok. Hier, j'ai rajouté sur mon CV survivant du Death Note. Et ça se vante, hein. Putain, dans ton historique, t'as quand même une phrase où c'est marqué Dieudonné visionnaire. Attends, on se régale. On se régale. Ah ouais? Attends, je remonte dans ton chat. Ah non, mais il a attiré notre attention là. Il a toute notre attention, hein. Ah, puis ça spam en plus. T'as écrit à peu près 200 000 fois. On oublie vite la question la plus importante en ce moment. Est-ce que l'iPhone 17 sera taxé fortement? Manifestement, c'est très important. Pourquoi? Ok. Ok. Un survivant du Death Note. Donc ça troll, ça troll. La régalade. La régalade. Bon, les amis, un petit sommaire ou pas? Allez, je prends l'iPad. Un troll comme on n'en fait plus, ouais, il n'y en a plus beaucoup les comme ça. C'est. Faut les protéger parce que ça, bientôt ça va être une. Profitez pas pour me reluquer, bande de cochons. Ça va être une espèce en voie d'extinction, ça. Les trollers comme ça. Comme ils auront été bannis de tous les streams, on ne pourra plus les entendre, les pauvres. Ils seront obligés de créer des chaînes rien que pour eux. Hop, on charge l'iPhone pour la journée. Ils sont obligés de créer des chaînes pour eux. Ah, on le fait le sommaire, ouais, je suis chaud, moi. Leur habitat se réduit, exactement, ouais. Regardez-moi ce biceps galgué de Papy Sam. Hein? Quel biceps? Vous avez des biceps, vous aussi? Let's go! Alors, une petite bouteille d'eau pour caler la tablette. Ici, on a des petits secrets de faction de fabrication. Ok, est-ce que la tablette marche? Ne marche pas. Non, ça, c'est. Ah! La qualité, la stabilité. Quel est ton parcours en triathlon? Oh, des petits triathlons. À une époque, j'ai fait un petit peu de triathlon. Voilà. J'ai un peu fait tous les formats. Voilà. On a touché un peu à tout. Non, on n'a pas fait les JO. Par contre, on va parler d'un grand sportif ce matin. On va même commencer par ça pour changer un petit peu. On va parler de Léon Marchand. Vous êtes prêts? Allez, c'est le sommaire, hein? Ok? C'est la une du Parisien. Léonissime, Léon Marchand, record du monde pulvérisé. Un an après son triomphe aux Jeux Olympiques, Léon Marchand a battu de plus d'une seconde, ce qui est énorme. Hein. Le record du 200 mètres 4 nage qui tenait depuis 2011. Voilà, l'or lui tend les bras, puisqu'a priori c'était en demi-finale, ce jeudi aux Mondiaux de Singapour. Voilà. Marchand marche toujours sur l'eau. Oh, oh quel titre incroyable. Marchand marche sur l'eau, c'est incroyable. Voilà, donc on va se pencher sur cet exploit. Voilà, un touche à touche. Comment ça, un touche à tout? Ah oui, d'accord. 13h, la finale, 13h20. Un touche à tout si brillant. Voilà. Mannequin. Pourquoi les torse nus, là? Il devait faire chaud, c'était au Trocadéro, le 6 août 2024, quand il était venu montrer ses médailles. Donc, voilà. Voilà. Donc, la une du Parisien, quand même. La une de l'équipe, vous vous en doutez, bien sûr, aussi. Hop. 1 minute 52 secondes, 69 centièmes, fracassant. Dès son entrée dans la compétition, Léon Marchand a explosé le record du monde de Ryan Locht. J'espère que je prononce bien. Zoom un peu plus sur la photo. Bande de cochonou, va. Hein? Sur 200 mètres 4 nage, une marque vieille de 14 ans. 14 ans. Un premier objectif déjà atteint par le prodige de la natation française qui peut être sacré champion du monde de la distance ce jeudi. On dit Lochti, hein? On dit Lochti. Sérieux, c'est une vanne ou pas? On dit Lochti. À contre-courant. Ah, en plus, il y avait du courant. Mais pourquoi ils ont mis du courant dans la piscine? C'est pas une vanne, on dit Lochti? Ok, d'accord. Ok. Et pourquoi ils ont mis du courant? C'est pas cool. Voilà. Le record en nageant. Phénoménal. Analyse et tout. Petit graphisme, petit dessin. Ouais, quelqu'un me dit que la piscine était en pente. Ouais, c'est. Ouais. Peut-être bien que. Peut-être que la piscine était en pente. On sait pas. Hein. Parfois, il y a des piscines comme ça qui montent un peu là et c'est dur. T'as des piscines qui sont en légère pente qui descendent comme ça là. Ça va plus vite. Ouais. Ça, c'est. Personne n'en parle ça. Ouais, je me demande si c'est pas une piste quand même. Ouais. À creuser. Les muscles. Merci. C'est gentil. Ah non. Ah ok. Ouais. Je pensais que. Ok. Le fameux dénivelé aquatique. Mais oui. C'est marrant. Ça fait longtemps que je cherche des dossiers, des articles, des enquêtes là-dessus sur le dénivelé aquatique. Je ne trouve jamais rien. Je ne sais pas ce que foutent les journalistes. Je ne sais pas ce que foutent les médias. Je n'ai jamais vu un papier de fond un peu sérieux sur le dénivelé aquatique. Alors que pourtant. Bon. Premier sujet. Deuxième sujet ce matin. Un petit peu de guerre commerciale. Hein. Parce qu'en fait, le sujet est quand même complexe et je trouve que plus on multiplie les articles, les dossiers, les sujets là-dessus, plus ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui s'est redessiné à la faveur de la guerre commerciale lancée par M. Donald Trump. Hein, voilà. Avec. Certains disent l'Europe qui s'est couchée et en acceptant les 15% de droits de douane supplémentaires. Alors, bon, l'économie est une matière complexe. Je trouve que plus on lit des choses là-dessus et plus on est en capacité de comprendre. Voici la une du Figaro ce matin. Trump impose son nouvel ordre au commerce mondial. Les droits de douane que l'Amérique inflige aux produits importés de 5 continents. C'est l'Inde, là. L'Inde, ils se sont pris quoi? 25%, je crois. L'Inde. Vont remonter ce 1er août à leur niveau de l'ère protectionniste des années 30, un choc. Voilà, donc il y a un gros dossier, page 22-23, je crois. 50% au Brésil? En vrai ou pas? Sérieux? C'est vrai? Trump bouleverse l'ordre économique mondial. 22-23, c'est là. C'est vrai? Oh là là, nom de Dieu. Trump impose un nouvel ordre au commerce mondial. Voilà. Allemagne, Irlande, Italie, Belgique, ces pays qui ont le plus à perdre. Voilà, on va se pencher sur ça. Le Brésil s'est rempli 50%, on s'est en rapport avec Bolsonaro. Bon, en tout cas, je pense qu'on a besoin de lire des choses pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'est tramé là, les conséquences que tout cela pourrait avoir. À propos de commerce toujours, vous les jeunes, vous savez comment on dit, on dit Shein, les fringues pas chères là. Hein, que ça commande par wagon, là, par container, par bateau. Là. Chine. Bon, voilà. Donc, il y a un dossier dans l'humanité. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on évoque les coulisses peu reluisantes de ce modèle. Ah, Faut que je connecte l'UMA. Les coulisses peu reluisantes de ce modèle économique de Chine. Voilà. Chine qui est produite comme par hasard en Chine. Tiens donc. Donc je vous remets l'UMA. Ça devrait marcher maintenant. Parce que l'UMA, ils ont besoin de se reconnecter le matin. Ouais, ça a l'air de marcher moyen quand même, ma connexion là. Bougez pas les beaux gosses. L'UMA, il ne veut pas se télécharger. Il faut le reconnecter au moment où tu veux le lire. C'est un joueur un petit peu exigeant, mais la qualité se mérite. Voilà. Voici la une de l'UMA ce matin. Tu as rien dans ton sommaire par hasard sur Patrick Sébastien via Mediapart ? Ah bah t'as 24 heures de retard, Sarah. On a parlé hier. Ah bah ouais. Ici, on a la pointe sur l'actu. Hein ? Patrick Sébastien, sur scène, dans un camping naturiste, devant des enfants, avec une dame qui, alors on sait pas trop, lui fait une fellation ou mime une fellation. L'enquête de Mediapart. Incroyable, excellent. On a parlé hier, ouais, vite fait. Patoche. Truc surréaliste. Bon, c'est l'enquête de Mediapart là-dessus. Bon, on n'y a pas passé deux heures non plus. Hein. Par contre, je voudrais vous parler de ça, ouais. Les sacrifiés du modèle Shein. Donc, gros dossier dans l'UMA. Le géant chinois de la... Ils sont tous givrés, ces présentateurs télé. Mais ouais, beau gosse du 28. Alors, les présentateurs télé, c'est des malades. C'est des maboules. Ne faites pas confiance à ces gens. Ce sont des fourbes, les présentateurs télé, quel que soit leur âge, leur génération, leur taille, leur implantation de cheveux. Ce sont des malades, ce sont des maboules, ce sont des pervers, moi je vous le dis, moi. Hein, fuyez ces gens, fuyez ces gens. La télé rend fou. Hein. Oui, les macronistes, bien sûr. T'as quand même une partie assez inquiétante du chat qui est en mode premier degré. Mais tu te comptes dedans, mais toi, n'es-tu pas présentateur toi-même? Mais que dit-il? Mais a-t-il oublié que lui-même était présentateur télé? Mais putain, les gars, mais bien, prenez un café le matin, je sais pas, fais quelque chose. Oui, c'est une vanne, quoi. C'est... Les gars, le matin, si vous aimez pas le café, buvez du matcha ou du thé, faites quelque chose, quoi, ou dormez, je sais pas. Oh là là. Bon, les sacrifiés du modèle Chine, le géant chinois de la fast fashion, cache derrière des prix imbattables une exploitation intensive. Des travailleurs, des travailleuses, bon bah voilà, une enquête d'Action Aid France en partenariat avec China Labor Watch. Bon, les coulisses de cette industrie textile ne sont pas reluisantes. C'est même désastreux. Donc voilà. Alors je sais, dans le chat, certains vont pop. Alors oui, mais c'est une question de pouvoir d'achat. Si on avait plus de sous, on n'achèterait pas chez Shein. Et puis c'est pas de notre faute. Et puis les autres marques, elles ont qu'à vendre moins cher. Et puis si on avait un plus gros salaire, eh ben, on pourrait ne pas acheter chez Shein et tout. Je sais. Mais je vais quand même vous lire ce dossier parce que c'est quand même bien de la merde. Voilà. Les conditions de travail des gens qui travaillent pour cette marque. Et puis, comme on parle du Proche-Orient tous les jours, parce que ça me semble essentiel et qu'il se passe quand même énormément de choses, je vous ai mis aussi un article un peu récapitulatif de ce qui vient de se passer ces derniers jours, notamment autour de la reconnaissance demain, dans les jours prochains, les semaines prochaines, par plusieurs pays, nouveaux pays, France, Grande-Bretagne, notamment éventuellement, de l'État de Palestine. Eh bien, il y a un dossier qui vient essayer de... Je sors de l'opinion, je re-rentre, on sort, on rentre, on sort au rang, parfois il faut. Quand ça bug, nous résumer tout ça. Voilà. Alors attendez, c'est page 5. C'est où ? Ah ! Reconnaissance de l'État palestinien, les lignes bougent. Une dizaine de pays occidentaux pourraient entamer un tel processus diplomatique. Donc, ce n'est pas que la France, ce n'est pas que la Grande-Bretagne. On parle du Canada, etc. Voilà. Ou plutôt lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU à New York en septembre, il se passe des choses. Alors, ça n'est pas suffisant. Ça ne suffira pas à ramener la paix. Ça ne suffira pas à protéger le peuple palestinien. Mais c'est le début de quelque chose. Et on reviendra sur ces infos, bien sûr. Merci, Piquet du 59, pour ton soutien que je n'avais pas fait. Voilà. Et puis, on terminera avec quoi ? Ah ! Il y a les allergiques dans le chat ? Il y a des allergiques, notamment. Ah oui, Castaner, c'est vrai, Thiel Paris, j'avais oublié. Oui, t'as raison. Oui, Castaner, il travaille pour Chine, je crois. Oui, t'as raison. Il y a des allergiques ici. J'ai un gros dossier dans Libération sur l'ambroisie. Je suis allergique au con, me dit Diesel. Oh, bah oui, mais enfin, bah dans ce cas-là, tu vas. Mon pauvre, tu vas souffrir. Hein. Non, allergique notamment au pollen. Alors, l'ambroisie, il paraît que c'est une saloperie. Bah, moi, je découvre ça vraiment dans Libération. Allergie, l'ambroisie, invité indésiré de l'été, conquérante et dopée par le changement climatique. Il faudrait le dire à Trump, ça. La plante invasive venue d'Amérique du Nord. Comme par hasard. Et en plus, ça vient des ricains. Allez. Libère un pollen hyper irritant de début août à fin septembre. Entre opération d'arrachage et lâcher d'insectes. Hein, quoi? Vous voyez, il faut l'arracher, Trump? Ah non, bah non, c'est... On ne peut pas l'arracher comme ça, Trump. C'est aux électeurs américains de changer de président, de décider. Tu ne peux pas l'arracher comme ça. Ah, l'ambroisie. Ah oui, l'ambroisie. Ah oui, l'ambroisie, il faut l'arracher, oui. Ah, pardon. Donc, libère un pollen hyper irritant de début août à fin septembre entre opération d'arrachage et lyncher d'insectes grignoteurs. Notre espoir, c'est d'un il y a un insecte grignoteur. Il y a un insecte qui kiffe l'ambroisie et il kiffe que l'ambroisie. Et donc, c'est peut-être l'espoir. Voilà. La lutte est lancée, bien qu'encore lacunaire. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que l'ambroisie progresse. Je vous ai fait les dents de la mer, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu la musique. Ah, ça, c'est la carte de France. Regardez. Alors, c'est vraiment la vallée du Rhône, vous voyez, le sud-est, mais surtout la vallée du Rhône, là, le couloir de la vallée du Rhône qui est concerné, le centre de la France. Un petit peu, je ne suis pas très fort en géographie, mais on va dire l'Aquitaine, là, je dirais Bordeaux, tout ça, un peu de sud-ouest, là. Par contre, alors le nord, la Bretagne, l'île de Beauté, nous, on n'en veut pas ici. Hein. Allez, bravo les Corses. L'Ambroisie, c'est non. Hein. L'Ambroisie, elle a voulu arriver en Corse par le bateau. Les Corses, ils ont dit, toi, tu dégages. Voilà, bam. Donc voilà, donc c'est pas partout, mais la mauvaise nouvelle c'est que ça progresse. La bonne nouvelle c'est qu'on commence à trouver des méthodes de lutte contre l'ambroisie. Voilà. Mais c'est une blague à chaque fois qu'il y a des pics de pollen, c'est là où je vais. Eh ben oui, mais Fitix, il faudrait peut-être que tu changes tes projets de vacances. Hein. Tu as la carte, hein? Tu as la carte? Voilà. Roubaix, Lille. Brest, Saint-Malo, Rennes, Ajaccio, Bastia, Porte Vecchio, impeccable. Voilà. Dunkerque, très bien aussi. C'est quoi l'ambroisie? Bah, c'est une plante. Mais ça pousse comme une mauvaise herbe et ça et c'est il y a un pollen qui est largué en août. Et c'est catastrophe, quoi. C'est hyper irritant pour les gens qui souffrent de trucs, quoi. D'allergies. Voilà. On finira avec ça. Voilà, un petit peu de santé. Bon, pas mal ce matin. Il y a un petit peu d'actu, quoi. Voilà. Puis on va faire un petit tour peut-être par la charte que Zerator vient d'édicter à propos du The Event, ce qui me semble plutôt un bon move, hein. On va encore bien manger de l'actu, ouais. Allez, on s'hydrate. Avec cette délicieuse eau corse, qui a quand même un petit parfum de vodka, il faudrait que je vérifie les bouteilles dont je me sers le matin, parce que je trouve qu'elle est quand même très très forte. Alors, oui, donc le The Event, édition 2025, très heureux de participer cette année encore, merci Zera, on est en train de bosser dur sur les Donation Goal. Petite polémique ces derniers jours, comme d'hab avec le The Event, puisque Zerator a décidé que tout le monde pouvait participer. Tout streamer, toute streameuse pouvait participer dès qu'il avait des stats minimales, notamment 50 viewers en moyenne, un certain nombre de streams sur l'année. Voilà. Donc n'importe qui peut s'inscrire sans validation par
Zerator. Voilà. D'ailleurs, ça marche très fort puisque à ce jour, on va aller voir le nombre de, on va aller voir le nombre d'inscrits hein, qui satisfont aux conditions. Les streamers, on est déjà à 289 streamers et streameuses participants. On enlève les 47 qui sont en présentiel. Voilà, et ça fait 242 personnes. 242 personnes qui sont inscrites en, en présentiel. Voilà. Donc Zera a été très clair. Il suffit d'avoir les stats. Je ne filtre pas. Hein. Zera, son discours, c'est qui suis-je moi pour dire que telle ou telle personne a le droit de participer ou pas. Voilà. Sauf qu'il y a donc deux, trois personnes qui sont inscrites et dont les noms ont provoqué l'ire, la colère de gens sur les réseaux sociaux, enfin sur X, hein, comme d'habitude, sur Twitter, notamment un député macroniste, je ne connais que lui. Je suis nul. Oh, je ne connais que lui. Denis Masseglia. Voilà. Qui est streamer, grand passionné de jeux vidéo, grand défenseur de la cause du jeu vidéo à l'Assemblée nationale, mais qui a voté récemment la loi Duplomb avec le, la réautorisation de l'insecticide controversé. Et des gens lui ont dit « T'es gonflé, tu viens participer à un événement pour financer notamment la Ligue contre le cancer et tu as voté ce texte qui réintroduit cet insecticide qui potentiellement a des conséquences sur la santé humaine. » Donc ça, voilà, ça a provoqué de la colère. Et puis, il y a une autre streameuse aussi, alors que je ne connais pas, qui je crois, prend des positions critiques sur... Alors, attention, je parle sous votre contrôle. Cassius Lady, c'est ça ? Sur l'islam, c'est ça ? Voilà. Bon, je ne connais pas son contenu. Voilà. Donc, comment vous dites ? Alors, bon, je sais que on va aller voir, hein, mais Masseglia, par exemple, il n'est plus là. Hein. Ça, je le sais. Hop. Hop, on vérifie. Voilà, il n'est pas là. Est-ce que c'est lui qui s'est retiré de lui-même ? Hein. Est-ce que c'est Zerator qui l'a kick ? Ça, je ne sais pas. Non, on n'a pas l'info. Je ne crois pas qu'on ait l'info. Voilà. Denis Masseglia a fait un communiqué, on va aller le voir. Il s'est retiré. Voilà, Denis Masseglia dit qu'il s'est retiré ou pas. Denis a fait un communiqué en réponse. Il s'est retiré, il l'a dit. Ok. Voilà. Et il y a la streameuse là, dont vous m'avez parlé, Cassius Lady. Alors, Cassius Lady, donc c'est par ordre alphabétique ou pas ? Ouais. Attends, comment ça marche leur histoire là ? Voilà. Ah oui, c'est comme ça, tout. Baguera, là, ça devrait être là. Et elle n'y est pas non plus. Alors moi, je n'ai pas les infos de savoir si ces gens se sont retirés. Ou si ils ont été kick. Voilà. Et ça, on... Je vous lis. Cassius s'est fait têche si on en croit son tweet. D'accord. Sur son Twitter, elle se plaint. D'accord, ok. Très bien. Cassius. C'est comment déjà vous dites Cassius ? Pardon, moi je connais pas cette stream. Cassius quoi ? Cassius Lady. Est-ce que j'ai son compte X moi ? X. Allons à la source. Cassius. Cassius Lady. Cassius Lady ? J'ai son compte Twitter. J'ai son compte Twitter ou pas ? Personne. Aucun résultat pour Cassius Lady. Ah, merde. Elle a plus de compte ? Alors, j'ai pas son compte. J'ai pas son compte. Ah, c'est un seul S. Cassius. Ah, je l'ai. Alors, est-ce qu'elle a fait un tweet ? Je vous montre pas forcément le compte parce que je ne connais pas le contenu. Je voudrais pas lui en faire sa publicité. Ah, elle a fait une vidéo. Ah ouais, je vais pas vous lire la vidéo alors. D'accord. Donc, a priori,
vous me dites que selon elle, elle s'est fait kick. C'est ça ? Ok. Et on va voir Denis Masseglia, le député. Voilà. Avec qui j'ai échangé, que moi, que je connais bien. Hein. Voilà. Par contre, je vois pas son tweet là. Ah si, si. Vous avez raison. Ok. Ma participation au The Event fait débat. Qu'on s'interroge sur mon inscription, c'est légitime. Qu'on m'insulte, qu'on me menace, c'est non. Alors, menacer physiquement, menacer un élu, en France, c'est puni par la loi. Hein. Donc, j'espère que les gens sur les réseaux sociaux qui sont lâchés sur le député dorment tranquille, parce que s'il veut donner des suites judiciaires à ça, c'est le statut de l'élu. Heureusement, en France, il est protégé. Hein, tu ne peux pas menacer physiquement un élu. D'ailleurs, tu ne peux menacer physiquement personne. Mais quand c'est un élu, c'est très particulier. Et s'il veut être casse-couille, les gens qui l'ont menacé physiquement sur les réseaux, ils peuvent potentiellement prendre très très cher. Voilà. Qu'on m'insulte ou qu'on me menace, c'est non. C'est ce qu'il dit. Ce sera mon unique prise de parole pour contextualiser ma démarche. Donc il y a un texte. Voilà. Avant d'être député, j'étais un joueur invétéré de jeux vidéo, ce qui est vrai. Un lecteur passionné de manga, un spectateur assidu d'e-sport, une culture à part entière, qualifiée par certains de populaire, geek, qui n'a pas toujours été considérée, une culture qui m'a amené à m'inscrire au The Event. Alors pour le coup, c'est vrai, c'est un des rares élus français qui maîtrise un peu ce sujet, quoi. Si elle met si cher cette culture, c'est qu'elle m'a aidé à tenir bon, lire des mangas, jouer à des jeux vidéo, bricoler un PC avec des amis, autant de refuges qui m'ont permis de traverser des épreuves personnelles. Marqué par la violence et la précarité, j'ai fait partie de l'une des meilleures équipes françaises sur un jeu en ligne. J'ai créé une auto-entreprise de réparation de consoles rétro. Cette culture, je ne l'ai pas observée de loin, je la vis. En 2016, je m'engage. Donc voilà, je pense qu'il parle du fait qu'il se soit lancé en politique. Voilà. En devenant député, j'ai décidé de défendre ces cultures. Cela m'a valu des critiques, car pour certains citoyens, le sujet n'a pas d'importance, mais je suis resté fidèle à ma conviction. Les résultats sont là. Prorogation du crédit d'impôt jeux vidéo, réduction du taux de TVA pour la billetterie des événements e-sportifs, nomination de Go Nagai, le papa de Goldorak, au rang de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est quelqu'un qui défend le jeu vidéo à l'Assemblée nationale, ça tout le monde le sait. Donc après, il explique que du coup, il a voulu participer au Zion parce qu'il est aussi streamer. Depuis, je subis un déferlement de haine, je lis des messages d'une brutalité extrême, certains s'arrogent le droit d'insulter et de menacer. Que me reproche-t-on d'avoir agi selon mes convictions, conformément à l'engagement pris auprès des citoyens de ma circonscription qui m'ont fait confiance ? Là, il parle de son vote pour la loi Duplomb, ici. Au-delà des agressions et du phénomène de meute, je déplore les rumeurs. Les informations que certains partagent sont fausses. Je n'ai entrepris à ce jour aucune démarche pour me retirer. Toutefois, eu égard à l'ampleur du désordre généré par cette polémique, je comprendrais que l'organisation souhaite adapter les critères de sélection des streamers participants. Doit primer le bon déroulement d'un événement construit sur la générosité et le partage, ainsi que l'engagement de toute une équipe. Quant au harcèlement que je subis, je dépose... Ah, bah ça, je vous avais prévenu. Hein. Bah, ça, c'était évident. Quant au harcèlement que je subis, je déposerai cette semaine une première série de plaintes pour menaces, insultes et incitations au suicide. Eh oui, sachez que déjà on menace personne. Menacer un élu, c'est très encadré. C'est pour expliquer qu'on peut pas faire ça, quoi. Voilà. Certains disent qu'il parle pas de la loi Duplomb. Si, il en parle très clairement là. Quand il dit que me reproche-t-on d'avoir agi selon mes convictions conformément à l'engagement pris auprès des citoyens de ma circonscription qui m'ont fait confiance, c'est une allusion directe 100%. Hein, il faut savoir lire à son vote pour la loi Duplomb, quoi. Voilà. Je vous lis un petit peu parce que je vois que ça chauffe dans le chat, c'est énorme. Donc, par contre, il dit clairement qu'il ne s'est pas retiré. Hein. Donc, ça, c'est très clair. Hein. Je n'ai entrepris à ce jour aucune démarche pour me retirer. Donc, il a été kick. Donc, sauf erreur, certains me disaient tout à l'heure qu'il s'était retiré de lui-même, il dit noir sur blanc le contraire ici. Euh, Guillaume écrit dans le chat, je suis contre la loi du plomb, mais malheureusement, certains ne comprennent pas ce qu'est la démocratie. Le débat, c'est dans les urnes et à l'Assemblée. Il a tout mon soutien, en tout cas. Voilà. Guillaume, qui est un opposant à la loi du plomb, mais qui estime que l'insulte et la menace physique n'est pas un mode de combat dans une démocratie. Ah. Un message d'un grand responsable du grand gène de télévision à 10h49, ça fait plaisir. Je vous lis parce que ça fait beaucoup réagir, c'est intéressant. Attends, il y a beaucoup trop de messages dans le chat, j'essaie de le geler un petit peu. Donc il fera le The Event, payé par nous en plus. Ok, alors Michael Farut n'a rien compris. On vient de vérifier qu'il n'était pas dans la liste. Oh la vache, putain, ça souffle. Hein. Je vous lis. La charte du The Event explique... tu as raison, Nuno, la charte est très très claire et on va la lire ensemble d'ailleurs, je la trouve très bien faite. La charte du The Event explique bien que toutes les personnes impliquées politiquement, la charte est très claire, hein, avec un mandat électif, ne sont pas les bienvenues, certainement la source du kick. Tu as raison, c'est vrai. La charte est très très claire là-dessus. Que penses-tu de la charte The Event ? Bah, je disais hier que ce serait une bonne idée qu'il y ait une charte The Event. Déjà, le fait qu'elle existe, cette charte, c'est une bonne chose. Et je, pour l'avoir lue hier après-midi, je la trouve de qualité. Mademoiselle Bébé, salut Sam. Quand tu as annoncé que ce député s'était inscrit au The Event, j'étais contre. Maintenant que tu lis son communiqué et son parcours de gamer, même si j'exècre son vote pour la loi du plomb, il me semble que oui, il a toute sa place au The Event. Ben, de toute façon, c'est plus possible puisque la charte de Zerator dit clairement que le The Event ne peut pas être rendu accessible aux élus, aux gens qui ont un mandat électif politique. Donc il ne peut pas participer, il ne peut plus participer. C'est interdit par la charte. Je vous lis. Hein. Salut Alex, bienvenue Alex MRCR. Comment tu feras le The Event quand tu seras président, Sam ? Je ne ferai plus le The Event quand je serai président de la République, par exemple. Hein. Je ne serai plus, voilà. Et puis d'ailleurs, je m'abstiendrai de commenter d'ailleurs le The Event parce que je ne voudrais pas qu'on m'accuse de récupérer ce succès. Alors je lis aussi des messages de gens en colère contre M. Masseglia, flop, L2, aucune excuse pour les menaces et insultes, mais c'est clair que voter la loi qui risque de causer des cancers, pardon, et venir se racheter une conscience sur un événement caritatif comme qui lutte notamment contre le cancer, ça me fait bondir. J'entends cette colère. J'entends cette colère. Moi aussi, je trouve que effectivement, ce... Moi qui ne pense pas beaucoup de bien de cette loi du plomb et qui estime que, à minima, un principe de précaution aurait dû s'appliquer. Oui, ma puce. Je sens que mon amoureuse veut me dire quelque chose. Je pense que Hélène va faire un tech sur la loi du plomb, mesdames et messieurs. Attention. Que penses-tu de la loi du plomb ?
Vous allez à la plage ? Vous allez où ? Ouais ? Tous les enfants ou... Ah oui. D'accord. Ok. Ah ouais, pour le snack. Avec plaisir. Ah oui. On se tient au courant. Ouais. Ça va. Oui. À toutes. Bisous, ma puce.
C'est le programme. Le programme de la journée qui est en train de se faire. Non, il n'y aura pas de chronique Brawl Stars. Les enfants vont à la plage. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je dis bonjour du Japon. Salut Breton Volant. Il Pour rappel, la loi du plomb, ça n'est pas que les pesticides. Il y a plein d'autres sujets jamais évoqués. Ici, si, I feel fine. On les a évoqués dans chaque stream consacré à la loi du plomb, notamment les mégabassines, notamment les minima à ne pas dépasser pour être considéré comme une exploitation intensive pour les animaux là, qui ont été augmentés. Tout ça, on en a parlé. Mais tu n'étais peut-être pas là. Voilà, Nixo estime que c'est une forme de récupération politique. Je vous lis. Quand Samuel sera président, il n'y aura plus besoin de Seven parce que tout ira bien dans le monde après. Fake news, mais ça me fait plaisir, Tawadil. Ce qui me dérange, c'est qu'il ne s'explique jamais sur la contradiction évidente entre son vote à l'Assemblée, son soutien aux The Haven, dont l'une des associations s'est exprimée contre cette loi. Le Luc, un point. C'est le rôle d'un député de rendre des comptes sur ses votes et ses contradictions. Ok. Ouais, mais c'est... Merci en tout cas de votre participation à ce débat. Je vois plein de... Du reçu, merci pour le raid. Merci beaucoup, mon ami. Merci, Sen822, pour le deuxième mois. Merci, Picadut59. Je vous lis. Je suis contre la loi du plomb, me dit Mazette, mais je respecte ce député et je ne le condamne pas pour son opinion pour autant. Certains prennent sa défense. Hein. Retsu, c'est un streamer passionné de jeux vidéo. Il ne va pas faire de politique, ça casse les couilles, ce bowling, nous dis-tu. Intéressant. Est-ce que ce n'est pas l'inverse, demander Muller de couche, un député n'est pas censé être d'accord avec tout ce qui fait son gouvernement, s'engager aux Yevon, c'est une façon de contester cette loi. Non, mais... Il l'a voté. Il y a eu un vote à l'Assemblée et a priori, il l'a voté pour. Zerator aurait dû faire la charte avant d'ouvrir l'accès aux streamers. Il n'y a qu'à Faucon. Ouais, wow. Écoute, cette charte, elle existe, c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est un boulot de fou d'organisation. Hein. Vous voulez qu'on aille voir cette charte ? Hein ? Hein ? On va aller voir le Zerator. C'est Zerator ou c'est The Event qui a tweeté ? Hop, The Event. Let's go. Donc, tweet du The Event, hier à 6h14 PM, donc en fin de journée. Le The Event évolue pour la première fois. L'événement est ouvert à tous les streamers en ligne. Ce changement d'échelle nécessite un cadre clair. Nous publions aujourd'hui une charte de participation affirmant nos valeurs et nos engagements. Voilà. Bon, moi, je l'ai lue hier après-midi. Elle m'a semblé plutôt intéressante. Lisons-la ensemble. Zera a fait un tweet aussi. Il a dit quoi, mon Zera? Hop. Oh, il a fait un long tweet. Ok, intéressant, je ne l'avais pas vu. Ok. Le The Event évolue, c'était nécessaire étant donné qu'on l'ouvre à toutes et à tous et qu'on cadre pour les gens qui ne sont pas sur place. Cette charte étant induite, logique et appliquée pendant notre événement sur place depuis toujours, quoi qu'en disent certains. Donc ce que dit Zera, première chose, c'est que avant, il n'y avait pas besoin, puisque avant, c'était que des gens qui étaient invités et validés par Zerator, et que lui ne, n'invitait pas des gens qui ne respectaient pas cette charte induite. Voilà. Sauf que l'an dernier, il y avait des gens déjà en distanciel, je crois. Voilà, mais peut-être validé par Zera. Donc en gros, première déclaration de Zera, lui il dit, avant il n'y avait pas besoin, puisque de toute façon les gens qui étaient là, forcément, respectaient cette charte induite. À titre personnel, je suis convaincu qu'ouvrir à tous permet d'avoir un événement incroyable et positif, c'est l'objectif. Cet événement a été fait pour rassembler tout le monde autour d'une même cause. On est d'accord avec ça. Ah, c'était presque possible jusqu'en 2020, année d'explosion de Twitch avec le Covid, et on a cherché des solutions pour ne pas transformer ça en centre d'appel de 400 streamers dans un hangar. On a toujours essayé d'ouvrir l'événement et d'y inclure le plus grand nombre de créateurs. Voilà, le Luck me dit, l'an dernier, il y avait des gens à distance, mais limités à 100 personnes, choisis par le nombre de vues, donc plus facile à contrôler. Merci beaucoup. Avec l'envergure que prend l'ouverture cette année, votre engouement, merci, vous dit Zerator, c'était nécessaire pour moi, j'insiste pour le « pour moi » de Zerator en réponse à certains commentaires dans le chat, de réaffirmer les valeurs qui animent l'événement et qui en sont indissociables. Je suis content de voir que les gens réagissent à tout ce qu'on fait et nous aide à aller de l'avant dans un événement devenu mainstream et donc très visible. C'est souvent pour le meilleur et pour le pire, mais franchement, le The Event, c'est surtout le meilleur. Ne vous concentrez pas trop sur ce que disent les réseaux sociaux. Ça compte évidemment, mais ça n'est pas la vérité absolue. Le The Event a véritablement changé énormément de vie depuis 2016. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et il propage des valeurs ultra positives et crée des souvenirs incroyables pour vous, pour nous et pour les gens que nous pouvons aider. C'est l'essentiel, c'est ça que je retiens. De nos jours, Internet est très polarisé et tout événement grand public a énormément de critiques. Le The Event n'y échappe pas. Nous essayons d'aller toujours dans la bonne direction. Rien n'est parfait, rien ne le sera jamais. Mais est-ce que la solution, c'est de ne rien faire? Ce n'est pas mon opinion. Alors, on préfère essayer du mieux qu'on peut avec toute notre énergie et toute notre âme. C'est un message très personnel que je vous délivre ici et je tenais à le poster un peu après la déclaration ci-dessous qu'on va lire. Car j'estime que le The Event, ce n'est pas moi, c'est vous. C'est nous. C'est la grande part de l'Internet francophone le temps de 3 jours. Vous le savez, je suis très éloigné des réseaux depuis plus de 2 ans et je prends rarement la parole, mais ce n'est pas par mépris de ceux qui s'expriment jamais, c'est plutôt pour me protéger et pouvoir avancer dans la meilleure direction possible tout en essayant de faire le tri en restant humain. Bravo d'avoir lu jusqu'ici. La billetterie du concert ouvre à 20h au fait. Prenez une place, ça va partir vite vu les artistes qui viennent cette année. J'adore faire partie de l'organisation de cet événement. J'ai tenu à lire ce communiqué jusqu'au bout parce que je trouvais qu'il était bien écrit. Il me fait grandir, mûrir, accomplir de grandes choses grâce à tous ceux qui sont impliqués et j'en resterai éternellement reconnaissant. Voilà. Voilà. Et là, vous avez maintenant la charte. Bon, sur le tech de Zera. C'est bien, non? Je vous lis un petit peu. Je vous lis un petit peu. J'aime beaucoup les assos de cette année. Moi aussi. Et vous, je trouve que les assos sont top. Pas mal, hein ? C'est bien. Il a du courage. Chaque année, on lui casse les couilles, me dit Magic Monkey, et il envoie pas chier le monde. Ouais, il a les épaules, ouais. Ok, lisons maintenant la charte. La charte à laquelle doivent souscrire tous les participants en présentiel ou en distanciel. Il y a une petite introduction que je pense importante à lire. Depuis sa création, le The Event n'a cessé de démontrer une vérité simple mais puissante. Lors, lorsque des dizaines de streamers unissent leur énergie, leur créativité, leur communauté autour d'une même cause, et ils peuvent changer le monde. Le The Event n'est pas un événement comme les autres, c'est une mobilisation exceptionnelle au croisement de la générosité, du jeu, de l'engagement. Pendant plusieurs jours, des créateurs de contenu se réunissent pour collecter des fonds, profit d'associations qui œuvrent concrètement à un monde plus juste, plus solidaire, plus humain. Ici, on ne joue pas pour soi, on stream pour les autres, pour celles et ceux qui luttent chaque jour contre la précarité, la maladie, les violences, l'exclusion, les menaces climatiques. Tendu le chat ce matin ? Non, c'est comme ça tous les matins. On s'engage avec sincérité, dans un esprit de fraternité, de respect et de bienveillance. On parle d'actu, Satan. Participer aux The Event, c'est s'inscrire dans une démarche profondément altruiste, où chaque mot prononcé, chaque geste posé, chaque euro collecté, porte un sens, celui d'une communauté qui agit ensemble pour faire grandir ce qui nous unit. Il est très beau ce texte. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de respecter l'esprit du The Event, un espace sans haine, sans division, sans récupération, où seul compte le désir sincère de contribuer positivement. Cette charte incarne les valeurs que nous partageons. En y adhérant, vous affirmez non seulement que vous respecterez certaines limites, mais surtout que vous rejoignez un élan collectif porté par la solidarité, le respect mutuel et l'envie d'aider. Donc ça, c'est le petit texte introductif. Et puis après, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 chapitres de règles, de valeurs. Quoi. Merci du reçu pour le raid encore. Nos valeurs fondamentales. Le The Event rejette strictement tout contenu ou comportement allant à l'encontre des valeurs suivantes. Inclusivité, respect absolu de toutes les identités. Tolérance, refus catégorique de propos ou comportements discriminants ou haineux. Bienveillance, échange respectueux, interdiction de toute forme de harcèlement ou d'appel au harcèlement moral, sexuel, en ligne ou hors ligne. Engagement citoyen, nous défendons des causes d'intérêt général dans un esprit collectif et solidaire. Valeurs fondamentales. Contenu et comportement inacceptable. On rentre un peu dans le détail. L'inscription et la participation aux The Event sont refusées ou immédiatement annulées en cas de 2 points. C'est parti. Comportement récent et répété, y compris sur les réseaux sociaux personnels ou professionnels, en contradiction flagrante avec les valeurs énoncées en cette charte. Propos discriminatoires, racistes, sexistes, LGBT-phobes, islamophobes, antisémites, christianophobes, validistes ou toute autre forme de haine. Diffusion ou soutien explicite à des théories extrémistes. Harcèlement moral ou sexuel avéré sous toute forme et sur toute plateforme. Chaque participant s'engage à modérer activement sa communauté et à intervenir immédiatement contre tout comportement contraire aux valeurs ci-dessus. Merci les modos. Validiste, c'est quoi d'ailleurs ? Certains me demandent dans le chat. C'est quoi validiste ? C'est discrimination contre les personnes handicapées ? Système faisant des personnes valides la norme sociale. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est une personne qui... D'accord. Une société validiste. C'est une société qui impose des barrières, des discriminations qui n'ont rien de naturel aux personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Moindre accès à l'espace public, à l'éducation, à l'emploi, au logement, à la citoyenneté, autant d'entraves à leur émancipation, à leur pleine participation à la vie sociale. Ben, merci Zera d'avoir ajouté ça en vrai. Hein ? Ok, très bien. J'y retourne. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise là ? Ah ouais, c'est F... c'est quoi déjà ? Ah, F11. Ah non ? Ah si, voilà. Ah bah j'ai fait F11 sur... J'aurais pas dû. Ah voilà, j'ai tout réparé. J'ai pas fait F11 sur le bon écran. Ok. Hop. Neutralité partisane et confessionnelle. Alors ça nous intéresse notamment pour le député, hein, qui n'est plus dans la liste. Les modos, je vous laisse prendre une décision concernant le dernier message de Dana Vael qui joue avec le feu depuis tout à l'heure. Je vous laisse regarder, je vous laisse décider ce que ça vaut. Je vous fais confiance. Neutraliser partisans et confessionnels. Le The Event est un événement non partisan et non confessionnel. Pour garantir cette neutralité, les personnes exerçant un mandat politique en cours, donc quand tu es député, c'est pas possible, local, régional, national, européen, ou ayant exercé un mandat dans le passé, ne peuvent pas participer. Voilà. Actuel élu ou élu passé, politique, impossible. Donc un expert ne pourrait pas participer, bah oui, c'est mandat passé. Hein, c'est extrêmement clair. On ne peut pas dire que ce ne soit pas clair, quoi. Décision et conséquences, l'équipe organisatrice du The Event se réserve le droit discrétionnaire de refuser ou d'annuler une participation à tout moment si elle estime que les contenus ou le comportement d'une personne compromettent l'image, la sécurité ou l'esprit de l'événement. En cas de manquement avéré au principe de cette charte, la participation pourrait être immédiatement interrompue. Voilà. Nous rejoindre, c'est s'engager, dernier paragraphe. Donc techniquement, Jean Massier ne pourrait plus participer s'il voulait revenir, parce que Jean Massier a été élu de la République. Alors je sais que Jean Massier a été attaché parlementaire dans une vie ancienne, hein, ce qui n'est évidemment pas un mandat électif. Alors est-ce que il me manque une info ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit trop vite ? Je vais citer qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Nikumanga 95. Donc techniquement, Jean Massier ne pourra plus participer s'il voulait revenir. Alors, donnez-moi l'info que Jean Massier un jour a été un élu. Allez, encore une belle info de chat. Eh oui, assistant parlementaire, ça n'est pas un mandat. Ah là là, les infos de chat. Les infos de chat quand ça bosse trop vite. Une réponse, Nikumanga ? Délégué de classe, peut-être en 6e 2, hein ? Peut-être qu'il a été élu en 6e 2 ? Nikumanga, des excuses peut-être ? Les gars, vérifiez les infos avant de dire des trucs dans le chat. C'est comme ça qu'on raconte que les fake news se propagent. Ah ! Mister Camping 2001 ? Ah, Mister Camping, j'y crois. On continue donc, maintenant que cette info a été débunkée à l'instant. Nous rejoindre, c'est s'engager. Participer aux events, c'est bien plus que streamer pour une cause. C'est s'engager activement dans une dynamique collective basée sur l'entraide, le respect mutuel et la volonté sincère de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Nous comptons sur tous les participants pour préserver et défendre cet état d'esprit exemplaire. Ce texte n'est pas parfait puisqu'il ne peut pas être parfait, c'est un texte. C'est un texte écrit par un humain ou des humains, donc forcément, il y a sûrement des choses qui manquent, enfin, moi que j'ai pas vu, hein, mais il est forcément imparfait, et je suis sûr que les experts comment on pourrait les appeler ? Qu'est-ce que je pourrais dire comme connerie encore ? Les experts du militantisme absolu, les croisés de la vérité, vont sûrement trouver des trucs qui manquent, mais c'est un bel effort, je trouve. Pas mal, non ? C'est bien. Ça cadre un peu. Les experts... la pureté militante, il y a ça aussi. Voilà. Bon, c'est pas mal, ouais, en vrai. Ouais. Allez, je vous lis maintenant. Pas mal, ce tech. La charte est bien, elle fait le taf. Interdit à ceux qui soutiennent la pizza ananas. C'est très bon la pizza ananas. Arrêtez de dire des bêtises. Zera n'a pas parlé de l'agisme. On pourra se moquer de JDG. Interdit de se moquer des vieux streamers. Interdit. Il y a quand même un certain nombre d'influenceurs invités aux The Event qui expriment clairement leur orientation politique. C'est bien un comportement partisan, non ? Dès que tu t'intéresses un petit peu à l'actualité, dès que tu t'intéresses un petit peu dans le monde dans lequel on vit, Magic Boss, tu émets un avis qui est un avis politique. L'avis que tu viens d'écrire est un avis politique. 90% des commentaires ici dans le chat sur l'actualité sont des avis politiques, que vous le vouliez ou non. Si vous voulez interdire à tous les gens qui ont un minimum de conscience politique qui s'intéressent au monde dans lequel on vit de participer aux E-Event, bon, bah, il n'y aura plus personne. Voilà. Non, ce qui est, donc là, la règle, c'est que c'est tout porteur d'un mandat électif, quoi. J'irai même plus loin. Je vais un peu à exagérer exprès pour vous faire comprendre. Participer aux E-Event est un acte politique. Participer à un événement qui dit que dans notre société, et notamment en France, il y a des choses qui ne vont pas parce que les politiques publiques n'ont pas, ne sont pas suffisantes pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre certaines maladies, pour proposer un service de soins efficace à l'ensemble de la population, etc. Ou ne fait pas assez pour l'environnement, pour éviter par exemple le développement des cancers infantiles dans un pays comme le nôtre, c'est un positionnement politique. Alors, politique, ça ne veut pas dire qu'il s'inscrit dans un parti. Hein. La politique, c'est la vie dans la cité. C'est participer au débat de la cité. Comment on s'organise en tant que communauté dans une cité qui peut avoir la taille d'un pays, par exemple. Comment on s'organise par des règles qu'on appelle les lois pour vivre ensemble, plus ou moins bien. Donc à partir du moment où vous vous intéressez à ça, vous faites de la politique. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être élu ou de militer dans un parti. Quelque part, participer aux E-Events, même pour ceux qui n'en ont pas conscience, c'est quelque part participer d'une démarche qui est politique. C'est, au sens noble, la politique, ça n'est pas systématiquement et 100% sale. Voilà, comme le dit Reich, il y a écrit très clairement dans cette charte, neutralité partisane et pas neutralité politique. C'est-à-dire qu'en fait, cette charte de participation aux E-Events dit bien que ce qui est interdit, c'est d'appartenir à un parti, finalement, ou d'avoir un mandat électif, mais pas d'avoir des idées politiques. Alors, sinon, il y aurait une bonne partie des streamers invités qui ne pourraient pas participer. Hein. Bon, bah, c'est pas mal cette première intro, là, sur cette info. Merci Drakeos, j'avais pas vu ton prime. Bon, désolé, j'ai ignoré involontairement plein de messages, non pas parce que je ne voulais pas les lire, mais je vous ai trouvé très actif là-dessus et j'avoue que j'ai été un peu dépassé par vos participations. Et je m'en excuse, j'ai sûrement loupé des messages extrêmement intéressants. Merci Lozissou pour le prime à l'instant. Très très actif, me dit Boubou. Tu vas faire un planning pour le Z-Event ? On va faire un planning, on va faire donation goal, on va se régaler. Faut que je bosse sur la rentrée de Samplay aussi, j'ai rien foutu pour l'instant. Oui, on sera en présentiel. Je ne t'ai pas encore vu sur la liste des streamers. Putain, ils m'ont kick. Ça y est, ils m'ont kick. Je suis viré ? Merde. Sur place. Putain, je suis plus dedans. Nom de Dieu. Samuel Etienne. Voilà. Entre Ponce et The Great Review, entre Sakor et Shisheyu. Il est là. Ça clique. Ah bah, on arrive sur ma chaîne. Oh, c'est sympa. Ok, d'accord. Non, c'est bon, tout va bien. Pour l'instant. Oui, tu as... Très bon humour de Elban Alix. Oui, tu as loupé mes messages, mais le reste du chat n'était pas ouf. Ce sera donc ton dernier The Event si tu deviens président de la République. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si tu te lances dans la présidentielle, tu créeras un parti ou tu en rejoins un ? Je créerai mon parti. Tu es dans la bande-annonce La Classe. Ah oui, ils ont pris des images d'archives, ouais. Bon, ils cherchaient des beaux gosses, hein. Est-ce que tu connais tous les streamers en présentiel ? 95%, je pense, oui. La plupart, je les ai rencontrés. Je vous tiendrai au courant de ce projet. Je vous tiendrai au courant de ce projet. Bon, quelle heure il est ? 1h31, c'est bien. On a fait une intro, on s'est fait un petit bonjour. On a parlé du JMET et de la charte. On va pouvoir commencer à lire les papiers que je vous ai annoncés tout à l'heure. Pendant le sommaire, on y va ? Allez, on y va avec d'abord de la piscine. Le mec, il n'y connaît rien, tu sais. Allez, tous à la pistoche ! Non, la natation, bien sûr. Voilà. Le record du monde pulvérisé. Merci de Zissou pour le prime. Merci encore. Par Léon Marchand, au championnat du monde. Je ne sais même pas où c'est. C'est à Singapour. En demi-finale, hein, le titre mondial se joue aujourd'hui. Voilà, un an après son triomphe au JO, Léon Marchand a battu de plus d'une seconde, ce qui est énorme. Hein. Le record du 200 mètres 4 nages qui tenait depuis 2011, l'or lui tend les bras ce jeudi aux mondiaux de Singapour. On a un petit édito. Il est mignon l'édito, lisons-le. De Benoît Lallemand, chef du service sport. Léon l'unique. Il y a cette phrase, si souvent rabâchée, le plus dur ce n'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. C'est tellement vrai. Il y a en écho cette confession. 2009, Alain Bernard, champion du monde olympique du 100 mètres, quelques mois plus tôt, racontait sa saison d'après. Ah, ça part sur Alain Bernard ? Ah ouais, ouais ça, il fait une petite digression. Là. Bon, Bof. Ok, bon, allons sur les faits plutôt. Là, ça parle, oui, Alain, d'un petit coup, un petit parallèle, comparaison, oui, je bof, bof. Si, c'est sympa, mais bon. Non, je bof. Allez. Marchand marche toujours sur l'eau. Marchand marche toujours sur l'eau. Waouh. Waouh. Ça, c'est du titre. Pour fêter l'anniversaire de ses 4 titres olympiques, le Toulousain s'est offert ce mercredi un fabuleux record du monde du 200 mètres 4 nages en demi-finale des mondiaux. Et il a encore une marge de progression. Il a massacré la course. C'est le directeur technique national, le DTN, Denis Auguin, qui le dit. Il en est presque choqué. Voilà. Léon Marchand, à 23 ans, vient de signer une nouvelle performance à sa démesure en demi-finale mondiale du 200 mètres 4 nages. Le Toulousain éparpillé façon puzzle aquatique, le record du monde de Ryan Lochte, qui tenait depuis 2011. Voilà. Les 1 minute 54 de l'Américain sont désormais au vestiaire de l'histoire, place à un sidérant chrono de 1,52,69 qui étonne même son auteur, qui lui a rapporté $30,000. J'ai quand même du mal à y croire, avoue le prodige tricolore qui nage vers la légende après chaque coulée et détient à présent les 2 meilleurs temps planétaires sur 4 nages après avoir déjà déboulonné l'immense Michael Phelps sur 400 mètres 4 nages. C'était en 2023. Et là, on était en 200 mètres 4 nages. Finale à 13h, me dit-on, 13h32, 13h15, par là. Je ne vais pas vous mentir, je me sentais vraiment bien, dit Léon Marchand. Il n'y a pas de mots, savoure son formateur Nicolas Castel, qui entraîne en Asie actuellement en l'absence de Bob Bowman, son coach du Texas. C'était exceptionnel, extraordinaire. Quand on m'a dit qu'il allait partir encore plus vite qu'en série, j'avoue que j'étais un peu plus inquiet. Il avait décidé de voir comment il se sentirait au bout de 150 mètres et c'est là qu'il a décidé d'aller au bout. C'est beau, hein. Voilà. Vous avez même c'est dans l'équipe où il y a un petit même, ils ont analysé, ils ont fait un schéma et tout, notamment avec ces fameuses coulées incroyables là. Renoncer aux mondiaux en petit bassin en décembre, parce qu'il avait fait l'impasse, prendre un trimestre de respiration en Australie, se faire exempter de championnat de France ou alléger son programme estival. Tout ça pour se concentrer sur sa fraîcheur sur cette barrière chronométrique lui trottait dans la tête depuis 2 ou 3 ans. Depuis son avènement international en 2022, l'homme qui a fait chavirer la France entière de bonheur il y a 12 mois ne cesse de repousser ses limites et il est loin de les avoir atteintes. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, dit-il. Même si je les garde secrètes, il en est parfaitement conscient. Il y a une marge de progression, l'enjeu c'est de nager encore plus vite. Je ne me suis pas encore projeté sur ce que ça pourrait donner aux 400 mètres 4 nages. On oublierait presque que Léon Marchand a d'abord un 6e titre à aller chercher aujourd'hui. Le record du monde, ça n'est pas tout. Voilà, même ses proches sont bluffés, nous dit le Parisien. Voilà, énorme.
Là, on a un portrait signé Éric Brunat. Ah ouais. Quelques infos un petit peu sur le parcours. C'est un gosse qui a toujours fait ce qu'il voulait, confier son père Xavier. Lorsqu'il a commencé à éclore au plus haut niveau le permis, il s'est démerdé tout seul. Il est allé sur Internet, il a payé moins cher que tout le monde et il l'a eu tout de suite. Il n'aime pas trop les règles, il se balade. Le bac scientifique, il l'a passé dans son lit. Il a mentionné très bien, ça a toujours été très simple. Facile ! Facile ! En octobre dernier, sur le plateau de Clic, le quadruple champion olympique répondait nonchalamment sur son attrait pour le Rubik's Cube, qu'il apporte toujours sur ses épreuves, tout en harmonisant de ses doigts les six faces de l'objet. C'est un passionné de Rubik's Cube. Ça explique bien des choses. Passionné de musique, notamment de rap et de house, il passe des heures sur Internet pour apprendre le mixage. Futur DJ. L'amateur de manga, dont la mère travaille pour une compagnie aérienne, se lance dans le brevet de pilotage qu'il n'a cependant pas encore pu finir, faute de temps. Se détendant les phalanges et le cerveau en tâtant du piano, il a récemment mis un pied dans l'art. Qu'est-ce que ne fait pas ce jeune homme en fait ? Il était intelligent et quand on est intelligent, c'est un peu plus facile, observe Vincent Gardeau, président des Dauphins du TOEC, qui le connaît depuis sa naissance. Il écoute, il regarde, il apprend ce qui se passe ailleurs, il s'enrichit du meilleur, que ce soit en natation ou en dehors. Le tout en gardant une désinvolture légèrement agaçante pour ceux qui rament au quotidien. Je suis plus vieux que lui, 30 ans, donc on n'était pas en classe ensemble, mais beaucoup de gens me disaient « Léon, il réussit, mais on ne sait pas comment il fait. » Il travaillait chez lui, mais il avait aussi une faculté à comprendre les choses directement en cours, et quand c'était nécessaire, il faisait en sorte d'y arriver. Il a certes des qualités au départ, mais tout n'est pas dû au talent, il y a aussi du travail. Et puis, comme tout le monde, il a des échecs, mais c'est juste qu'on n'en parle pas. T'es meilleur que lui sur Valo, remets-le en place. Ouais, je vais lui dire, ouais. Par exemple, il a échoué en rugby. L'un des plus cuisants de ses échecs, c'est jouer très jeune avec un ballon ovale à une époque où le futur sportif préféré des Français n'avait pas plus d'attirance que ça pour les lignes d'eau. Une carrière d'Antoine Dupont assez vite avortée dans l'une des places fortes du rugby en France, faute d'un physique en totale adéquation avec la discipline. J'étais très fin et je prenais un peu cher, dit-il. On ne peut pas dire que son passage de rugbyman a été couronné de succès, plaisante Vincent Gardeau. Il faut quand même bien se rater de temps en temps. C'est rassurant de savoir qu'il a raté des trucs. Mais normalement, quand ça lui plaît, il persévère et il est doué. Après sa carrière de champion de natation, Marchand rêve d'astrophysique, d'astronomie, d'espace. Une belle façon de partir conquérir un autre univers où les trous noirs sont plus nombreux que ceux qu'il connaît dans les bassins. Waouh ! Incroyable écriture. Nix nous rappelle qu'en 2017, il a raté une omelette. Excellente vanne. Retour sur son parcours. Si ça vous intéresse, dans Le Parisien, il y a une pleine page sur tout ce qu'il a fait ces dernières années. Et notamment le fait qu'il est un peu star maintenant. Viens par là, petit Léon Marchand. Mais non, Sugar, t'inquiète, on va dire L'Équipe en plus. T'as loupé Le Parisien, mais regarde. Bam ! C'est aussi la une de L'Équipe. Allez, la natation en une de L'Équipe. Voilà le beau gosse. Alors, ça n'est pas moi en Corse. Hein. Ce ne sont pas mes photos de vacances. C'est Léon Marchand dans la piscine à Singapour. Voilà, fracassant 1 minute 52-69. À contre-courant. Ce record, je l'ai dans la tête depuis 2-3 ans. Vous voyez, c'est pas glisse le héros des Bleus, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. L'équipe qui rappelle qu'il s'est un petit peu mis au vert ces derniers mois, volontairement pas participé à certaines compétitions pour arriver super frais à ces mondiaux. Quoi. Il y a aussi ça. Hein. La stratégie, quoi.
Je pense qu'il va y avoir du monde devant la finale. C'est diffusé sur quelle chaîne de télévision, ça? Voilà. France 3?
Oh,
France 3. Le record en nageant, alors vous savez qu'il est très très fort sur les coulées, il a des coulées incroyables, très longues, très rapides. S'il joue toujours sur ses coulées, c'est sa progression sur les parties nagées qui a permis à Léon Marchand d'effacer le record du 200 mètres 4 nages de l'américain Lochte. Voilà, vous avez l'analyse, vous avez l'analyse notamment avec les coulées là. Et la comparaison avec le record de 2011 de Ryan Lochte. Voilà. Donc n'oubliez pas, à partir de 13h, là, 13h15, 13h30, ne ratez pas ça. C'est sur France 3. Certains me disent 13h21. Bon, je me mettrai à 13h sur France 3. Voilà. Quelle heure il est là? Ça va, on est bien. Et puis, comme ça, vous pouvez regarder en direct ça, quoi. Voilà. Des chips, des cahuètes, et vous avez ça. Bon, oui, c'était bien. Je me suis dit, commencer par cette actu, ce serait cool. Il pourrait battre son propre record. Oui. On a le droit de ne pas regarder aussi. Non, c'est obligatoire, Cyril. C'est obligatoire. Et il y a 18h10 aussi. Il y a quoi, 18h10?
Et qu'est-ce 18h10?
C'est l'apéro, ça. Salut, Harmonie. Ça va? ?13h23 d'après l'équipe. Allumez votre télé à 13h, comme ça vous serez sûr de ne pas rater. La une est trop moche. Oui, la DA de la une n'est pas folle, mais on s'en fout. Mince, je vais me prendre une amende parce que je ne vais pas regarder. Futon, tu as intérêt à regarder. Je travaille, mais je vais dire au patron que ça m'a dit que c'était obligatoire. Oui, Gaëtan. Et si on n'a pas de télé? Tu te crées un compte sur France.tv, là, sur ton téléphone, sur ton iPad. Ça prend 2 secondes. Tu crées un compte, tu fais France 3 direct, bim, bam. Et si la revue de presse n'est pas finie d'ici là? Elle sera finie d'ici là. Elle sera finie d'ici là. Hein? Harmonie est au boulot, c'est pas grave. Vous créez un petit compte France Télé là sur votre téléphone, sur votre tablette, discrètement là, entre deux dossiers, à côté du PC. Voilà, une petite oreillette. Hop. Hop. Ça bosse?
Oui, ça bosse.
Tout va bien. En plus, ça va être rapide. Hein. Vous n'allez pas rater longtemps, hein, le boulot. Hein. C'est toujours de bons conseils, c'est vrai. Ça va être très rapide en plus. Hein. Vous n'allez pas rater beaucoup. Hein. Les employeurs qui me regardent, les chefs d'entreprise qui disent « Ah, là, Samuel, il est gonflé. » Il incite cette génération de feignants à bosser encore moins. Eh, les gars, 1 minute 52. Les gars, hein, c'est même pas le temps d'une clope. Alors, c'est même pas le temps d'aller chercher un petit café. Alors, ça va aller, oui? Bon. Enfin. Voilà pour cette bonne nouvelle ce matin. Même pas le temps de... Enfin, voilà quoi, hein, Jim? Rien compris. Vous allez aux toilettes vite fait, avec votre téléphone, ça ira bien. Et peut-être moins, ouais. Allez, deuxième actu ce matin, la guerre commerciale. Hop, parce que nous, on essaie de comprendre ce qui se passe là. Eh, ils ont le drapeau là. Oh, allez, haut les cœurs la Corse là. Let's go là. Allez. Voilà. La guerre commerciale, hein, on essaie de comprendre un petit peu la nouvelle donne là. Et je pense qu'on n'a pas, de trop de lire plusieurs papiers. Ça fait quelques semaines déjà qu'on se penche sur le sujet, sauf que maintenant... On y voit un peu plus clair. C'est la une du Figaro ce matin, le nouvel ordre mondial, carrément. Léon Marchand qui est d'ailleurs en une du Figaro, vous avez vu. Trump impose son nouvel ordre au commerce mondial. Les droits de douane que l'Amérique inflige aux produits importés des 5 continents vont remonter ce 1er août à leur niveau de l'ère protectionniste des années 1930. 1930. Hein, vous n'étiez pas né. Moi, je me rappelle. Hein, je me rappelle le protectionnisme dans les années 1930. Hein, le Figaro nous le rappelle aussi. Outre l'accord avec l'Union européenne proclamé dimanche depuis son club de golf en Écosse, c'est surréaliste, Donald Trump a conclu 5 autres deals commerciaux aux contours souvent imprécis. Pour les dizaines de pays qui n'ont pas topé avec la Maison Blanche, des droits de douane considérés comme punitifs entreront en vigueur ce 1er août. Bam ! Et je n'avais que 80 ans à l'époque, exactement, Raph. Ces barrières douanières contre les produits importés grimperont au taux moyen de 17,3%, hein, alors qu'elles n'atteignaient que 2% avant le retour à la présidence du milliardaire. Donc voilà. On peut accuser de tout ce qu'on veut Trump, mais en tout cas, là, il a fait un truc. Alors, je ne sais pas si c'est bien pour le commerce mondial, pour l'économie mondiale, pour la croissance, ni même pour les Américains, mais en tout cas, il l'a fait. Soit un retour au niveau qui sévissait dans les années 30. Ceux qui m'appellent Gandalf dans le chat, je vous vois. En apposant le rapport de force avec chacun de ses partenaires, en faisant voler en éclats le multilatéralisme, Donald Trump précipite le commerce mondial dans une nouvelle ère. Mais avec l'imprévisible hôte de la Maison-Blanche, de nouveaux rebondissements sont pas à exclure. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est les deals qui ont été faits et tout. Mais, donc l'Europe a cédé sur 15%, mais certains ont très peur que dans une semaine, dans 2 heures, Trump reprend son téléphone. Bon, c'est un mug. Hein. C'est pour... Et appellent et disent « Hé, les Européens !» Non, en fait, non, 15, non. Ça va être 30. C'est Trump, hein. Alors, on va voir page 22 et 23 ce qui se passe. Une espèce de petit résumé de la situation. Ici. Trump impose un nouvel ordre au commerce mondial. Ceux qui écrivent dans le chat « Gandalf, il a des cheveux », je vous vois. Les droits de douane américains qui entrent en vigueur ce 1er août pour de nombreux pays sont remontés au niveau de 1900. 35. Lisons. Pour l'instant, 6 pays ou blocs d'États ont signé ou du moins annoncé un accord avec Washington. Le Royaume-Uni, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, le Japon et l'Union européenne. Ça, c'est ceux qui ont signé. Ça représente 45% des importations américaines. Washington a aussi trouvé un terrain d'entente provisoire jusqu'au 12 août avec la Chine, voilà, mais c'est provisoire, et imposé au Mexique et au Canada un régime particulier lié à des programmes communs de lutte contre le fentanyl, la drogue. La date exacte de l'application des nouvelles surtaxes visant l'Europe n'est pas encore très claire ce mercredi, mais le principe est bien acté. Voilà. Voilà. Ainsi, selon les calculs qui ont été faits, suite à l'ensemble de ces accords ou compromis, avec ces 6 pays ou blocs de pays, les droits de douane américains vont grimper désormais à 17,3% contre 2% début janvier. Alors, les États-Unis qui sont encore en négociation avec l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande, la Suisse, eux, normalement, au 1er août, ils vont prendre une augmentation des droits de douane, quoi. On va voir ce qui va se passer. Moi, j'ai lu que l'Inde, ils ont pris 25%. Ce moment est historique. Donc voilà, c'est un mot qui est souvent galvaudé dans l'actualité. Mais voilà, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. 15% pour la Corée du Sud est tombé ce matin. Et MMG me dit que la Corée du Sud, c'est 15% aussi. Donc, ce moment est historique. Avant cette échéance du 1er août, les taxes douanières américaines sont remontées au niveau de 1935. Voilà, au cœur de la décennie protectionniste qui avait suivi la grande crise de 1929. Conséquence, à l'époque, le commerce international s'était effondré de 60% en seulement 3 ans. Merci pour la source, MMG. Entraînant de nouvelles réactions dramatiques. Bon, Figaro rappelle de toute façon que l'économie du 21e siècle diffère profondément de l'économie de cette époque-là, donc comparaison n'est pas raison. Allez, par rapport à cette époque, les chaînes de production sont bien davantage interconnectées, les dépendances mutuelles inextricables. Hein. Dans cet environnement, les autres pays tentent d'éviter l'escalade. Éric Lombard, le ministre français de l'économie, l'a clairement expliqué cette semaine dans les colonnes de Libération, on l'a vu dans la revue de presse. La rétorsion aurait fait du mal à l'économie européenne. C'était une option que nous gardions en l'absence d'un accord. Et si les États-Unis appliquaient unilatéralement des droits démesurés. Emmanuel Macron restait bien silencieux depuis dimanche. a pour sa part déploré, tiens, j'avais pas la réaction de Macron, déploré un manque de fermeté européenne. Hein, l'Europe ne se vit pas encore suffisamment comme une puissance. Salut Enzo. Pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. Hein, le président Macron, je le rappelle, était l'un des partisans d'une ligne dure avec le président Trump, en souhaitant que les Européens montrent les muscles vis-à-vis de Trump, mais il n'a pas réussi à convaincre des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme je ne sais plus quel autre pays, qui eux souhaitaient un accord, quoi. En raison des craintes sur leurs exportations. Pardon. Il y a un éclairage justement sur l'Allemagne, l'Italie. Ah, il y avait la Belgique et l'Irlande aussi. Le sentiment général en Europe, même si ce n'est pas le sentiment du président Macron, vous l'avez entendu, c'est que les Européens ont limité les dégâts. Ouais. Quant aux autres éléments, on les a évoqués ces derniers jours déjà. Voilà. Alors, on a lu plusieurs dossiers ces derniers jours, mais il y a une vraie unanimité dans les médias français et dans la classe politique française d'ailleurs pour dénoncer cet accord. Personne ne trouve que c'est un bon accord. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, c'est les conséquences de ça dans les mois et les années qui viennent, les conséquences pour l'économie européenne, pour les emplois européens, pour l'économie américaine, pour les emplois américains, pour le pouvoir d'achat des Américains aussi, puisque ces droits de douane vont augmenter le prix de beaucoup de produits aux États-Unis. Et on sait déjà que parmi les plus touchés aux États-Unis, ça va être les ménages les plus modestes, en fait. Voilà, mais ça c'est le futur qui nous le dira. Est-ce que par exemple, donc normalement Trump ne peut pas être réélu. Enfin, je dis normalement parce que dans la Constitution américaine, tu ne peux pas faire plus de deux mandats, si je ne dis pas de bêtises, même s'ils ne sont pas non consécutifs. C'est deux mandats max. Bon, après, avec Trump, tout est possible. Est-ce que ça va être à mettre à son crédit politique ou à son débit, cette histoire? Est-ce que ça va appauvrir les États-Unis ou les enrichir? C'est toute la question, quoi. A-t-on des nouvelles concernant les droits de douane que Trump voulait appliquer au Brésil? Alors, on m'en a parlé tard dans le chat, je crois qu'ils sont très importants. Brésil. Je crois qu'ils sont énormes. Sur fond de pression politique pour soutenir son ancien allié, le président d'extrême droite brésilien Bolsonaro. Voilà, hop. Tiens, on est toujours avec le Figaro d'ailleurs. Là, un article qui a été publié il y a une quinzaine d'heures. Droits de douane, Donald Trump vole, c'est ce que je vous disais, au secours de Bolsonaro et impose 50% de taxes sur le Brésil. Ce n'est plus qu'une histoire de commerce. Trump avait dit arrêtez d'embêter la justice brésilienne là. C'est quand même un coup de pression sur la justice brésilienne. Arrêtez d'embêter mon ami, l'ancien président d'extrême droite Bolsonaro. Sinon, attention, vous allez prendre des gros droits de douane dans la gueule. Il l'a fait. Ça, c'est surréaliste. C'est le Far West. Hein. C'est le Far West. Il y a de la musique là? Le président américain a signé un décret mercredi en représailles aux poursuites lancées dans le pays contre l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'État. Coup dur pour Brasilia, le gouvernement américain a renforcé mercredi sa pression sur le Brésil, donc c'était hier, en annonçant de nouvelles sanctions contre le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, avant de rendre effectifs les 50% de douane, de droits de douane annoncés sur les produits brésiliens. Alors, on rappelle que Bolsonaro est poursuivi au Brésil pour une tentative présumée de coup d'État. Il y en a des sons là qui s'ouvrent sur cette page. Après sa défaite lors de l'élection 2022. C'est marrant, ces présidents qui ont du mal à reconnaître leur défaite. Ça leur fait un petit point commun d'ailleurs. Voilà, et donc là, après avoir menacé pendant plusieurs jours Brasilia de 50% de surtaxe douanière à compter du 1er août, il a signé un décret en ce sens. Voilà. Bolsonaro s'est dit très reconnaissant, bon, appelant les autres leaders du monde libre à s'unir aux États-Unis. Bolsonaro qui risque 40 ans de prison. Le procès doit s'achever dans quelques semaines. Waouh, c'est fou, hein? Ouais. Étonnant. Tous les jours, il y a des articles sur la politique de Trump, même aux États-Unis aussi. Alors, je ne vous les lis pas tous les jours, mais il faudrait que je vous reparle aussi des États-Unis en interne. On a beaucoup parlé dans cette revue de presse, notamment de la police anti-immigration, là, des moyens gigantesques qu'elle avait reçus ces derniers mois et des rafles qui ont lieu dans certaines villes, certaines entreprises, certains lieux. Voilà, on a aussi parlé des Cubains, enfin, récemment, là, des Cubains pro-Trump installés aux États-Unis et qui voient l'administration Trump se retourner contre eux, là, actuellement. Mais voilà, il y a d'autres choses que je vous trouverai dans les prochains jours. Allez, autre actu ce matin, on fait un point sur le Proche-Orient. Là aussi, beaucoup d'actu ces dernières semaines. Voilà. Et j'ai trouvé un article ce matin, un dossier qui tentait de résumer un petit peu les actus de ces derniers jours, de ces dernières heures, sur la reconnaissance de l'État de Palestine par de plus en plus de pays à venir. Voilà. Et j'ai un article qui synthétise un petit peu tout ça, que je trouvais assez intéressant. C'est la une de l'Opinion, je crois. Hop, attendez, alors l'Opinion, ouais, parfois il bug, il faut sortir, re-rentrer. Le journal, c'est ici, en haut à gauche. Et c'est page 5. Ah voilà. C'est page 5. Voilà. Reconnaissance de l'État palestinien, les lignes bougent. Une dizaine de pays occidentaux pourraient entamer un tel processus diplomatique au plus tôt lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU à New York en septembre. Donc il y a la reconnaissance de l'État palestinien par la France en septembre prochain, lors de cette AG de l'ONU, par le président Macron, par la France, annonce du président Macron, et il y a d'autres pays qui devraient faire de même. Quelle est l'importance de ça? Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on est sur le plan des symboles uniquement, de la diplomatie, de la politique? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour les Palestiniens? Autant de questions qu'on se pose, on n'a pas forcément toutes les réponses. Lors de la conférence organisée par la France et l'Arabie Saoudite au siège des Nations Unies à New York, qui vient de s'achever hier, 15 pays occidentaux ont renouvelé leur appel à un cessez-le-feu permanent à Gaza et un engagement commun en faveur de la solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Jean-Noël Barrot, je crois que c'est le chef de la diplomatie française, ne masquait pas sa satisfaction mardi soir à la tribune des Nations Unies. Co-président de la conférence onusienne avec son homologue saoudien, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères savourait les propos de David Lamy. Le rejet par le gouvernement Netanyahou d'une solution à deux États est une faute morale et une erreur stratégique, a affirmé le chef de la diplomatie du Royaume-Uni, ancienne puissance administrant la région. Cela nuit aux intérêts du peuple israélien et ferme l'unique voie vers une paix durable. Puisque, contre toute attente, la Grande-Bretagne, dont on n'attendait pas
à ce qu'elle elle aussi reconnaisse l'État palestinien, a annoncé hier ou avant-hier, on en a parlé, qu'elle allait a priori reconnaître l'État de Palestine, sauf si Israël souscrivait à toute une liste de demandes de Londres. Il n'y a aucune chance qu'Israël le fasse. Le Britannique a aussi expliqué que son pays reconnaîtrait unilatéralement l'État de Palestine si Israël ne stoppe pas la guerre, par exemple. La solution à deux États évoquée pour la première fois en 1937 par une commission présidée par Lord William Peel, la Palestine qui était encore à l'époque sous mandat britannique, et la création d'un foyer national juif l'a été 20 ans plus tôt par la déclaration de Lord Arthur Balfour. Pour la diplomatie française, il n'y a pas d'autre alternative à la paix que cette solution. Le projet de reconnaissance du Royaume-Uni, même conditionné, est un appui de poids pour insuffler une dynamique internationale. À New York, 9 autres pays occidentaux ont manifesté leur velléité de reconnaître l'État de Palestine, en plus. Donc, Andorre, Australie, Canada, Finlande, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Portugal, San Marin. Avec la France, ils pourraient rejoindre lors de l'Assemblée générale en septembre les 148 pays, les 148 nations qui ont déjà fait de même depuis 1988. Vous savez que la grande majorité des pays à travers le monde ont déjà reconnu la Palestine, mais il manque beaucoup de pays parmi les plus industrialisés, les plus développés, notamment les pays du G7. Le chancelier allemand, par exemple, on attend notamment l'Allemagne, Friedrich Merz, n'y est pas encore prêt. Pour lui, cette reconnaissance doit être l'une des dernières étapes d'une négociation de paix entre Israéliens et Palestiniens, ce qui est totalement illusoire vu l'absence totale de négociation de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Trump, encore lui, a aussi exprimé le plus grand scepticisme quant à ces reconnaissances. Les États-Unis ont boycotté les 2 jours de conférence et tenté même de faire pression pour que le moins de pays possible y participent en solidarité avec Israël, puisque les États-Unis, historiquement, grand allié d'Israël. En vain, puisque 150 pays se sont relégués à la tribune de l'ONU pour justement dire leur attachement à la solution des deux États. La dynamique occidentale portée par Paris n'aura néanmoins aucun effet tant que les dirigeants israéliens ne réenclencheront pas de pourparlers de paix avec les Palestiniens. Bon, je m'arrête sur ça parce que c'est important. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer à la lumière de ce que j'ai plus ou moins compris ces derniers jours. La reconnaissance de l'État d'un État de Palestine, c'est important au niveau symbolique, au niveau politique, au niveau diplomatique. Voilà. Et ça rend plus compliqué pour le gouvernement israélien toutes les agressions que celui-ci mène ou laisse faire contre le peuple palestinien. Je pense bien sûr à la guerre menée contre le peuple palestinien à Gaza. Je pense à la liberté laissée aux colons israéliens pour s'en prendre physiquement et aux terres des Palestiniens en Cisjordanie. Voilà. Plus tu donnes un cadre juridique fort à la Palestine, reconnu par le plus de pays possible, et plus tu rends compliqué ces exactions menées par Israël. Quoi. Donc on est sur le plan de la politique, des symboles et de la diplomatie. Ça n'est pas grand-chose, mais c'est déjà le début de quelque chose. Enfin, c'est mieux que rien. Quoi. Mais l'opinion nous rappelle que ça n'est pas tout. Cette dynamique occidentale portée par Paris, pour le coup, il faut reconnaître que dans l'initiative du président Macron, il s'est passé quelque chose, ça a entraîné des choses. Cette dynamique occidentale portée par Paris n'aura néanmoins aucun effet tant que les dirigeants israéliens ne réenclencheront pas des pourparlers de paix avec les Palestiniens. Perspective très hypothétique dans le contexte actuel. Israël n'a pas achevé sa guerre dans l'enclave palestinienne. Le Hamas n'a pas rendu les armes. Une colonisation violente, je vous en parlais à l'instant, se poursuit en Cisjordanie, et les alliés d'extrême droite de Netanyahou se sont prononcés pour l'annexion de territoires palestiniens et le déplacement de population. Voilà. Vous avez une part de plus importante du paysage politique israélien, voilà, et pas seulement l'extrême droite, qui dit très très clairement bon, le projet politique maintenant, c'est de virer les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, c'est à nous, c'est notre terre. Voilà. Donc ça, c'est un discours politique en Israël qui s'est beaucoup développé, dernière semaine, avec notamment des déclarations de ministres d'extrême droite, de ministres extrêmement clairs en ce sens. Il y a même eu un vote à la Knesset d'une déclaration qui dit en gros c'est ça le projet. Voilà, ça n'est pas des. C'est écrit, c'est déclaré. Voilà, c'est à eux. Donc là, vous imaginez bien que l'hypothèse d'un État palestinien pour ces gens-là, elle est totalement évacuée, quoi. Le Premier ministre israélien lui-même n'a plus évoqué la solution des deux États depuis son discours à l'université Bar-Ilan à Tel Aviv en 2009. Netanyahou n'a pas parlé de cette solution des deux États depuis 2009. Et l'opinion publique israélienne y est majoritairement opposée, opinion publique israélienne qui s'est radicalisée, vous le savez, depuis les attentats du Hamas. Alors, du coup, l'opinion se penche sur ce qu'il appelle le pari d'Emmanuel Macron, qui est avant tout politique. L'objectif est quoi ? Hein, puisqu'on vient de constater que cette reconnaissance de l'État palestinien n'allait pas suffire à imposer la paix, bien sûr, et à demander à Israël d'arrêter ce qu'il mène actuellement, quoi. Alors, à quoi bon ? Et là, l'opinion nous explique. Le pari d'Emmanuel Macron est avant tout politique. L'objectif est de remettre la question au centre du jeu, de constituer un front occidentalo-arabe afin de cornériser un peu plus le gouvernement Netanyahou, jugé comme un obstacle à la paix. Alors que le gouvernement Netanyahou soit un obstacle à la paix, c'est une évidence. Malgré les nuances dans l'expression du soutien à la reconnaissance de l'État palestinien, le résultat est globalement réussi. Paris, donc la France, accusé par le Premier ministre israélien de soutenir le terrorisme, hein, puisque dans la logique du gouvernement israélien actuel, reconnaître un État palestinien, c'est soutenir le Hamas, qui a le pouvoir actuellement à Gaza. Donc, les éléments de langage d'Israël, enfin du gouvernement israélien, pardon, c'est en ce faisant, vous soutenez le Hamas. C'est aussi ce que dit le Rassemblement national en France aussi. Le RN, Marine Le Pen, dit exactement la même chose. Elle dit ce que Macron vient de faire, c'est de soutenir le Hamas. Même analyse. Vous en faites ce que vous voulez. Paris, accusé par le Premier ministre israélien de soutenir le terrorisme, peut aussi s'enorgueillir d'avoir obtenu une large condamnation du Hamas, inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. 17 pays arabes, dont l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte, ont condamné les attaques du 7 octobre. Ils appellent ces pays arabes, on ne dit pas pays arabes, bon, c'est un peu flou comme définition, mais pays arabes de la région, ils appellent comme les Occidentaux à un désarmement du mouvement, donc les pays arabes de la région qui appellent à un désarmement du Hamas, qui est assez nouveau, ainsi qu'à son exclusion de tout rôle politique dans le futur au sein de l'enclave palestinienne. Donc ça, c'est aussi une forme de progrès. À New York, les pays occidentaux ont aussi souligné l'importance de relancer le processus de normalisation avec Israël et de faciliter son intégration dans la région. Mais il n'y a pas eu d'avancée significative sur le sujet. Les dirigeants musulmans ne sont pas prêts à faire des déclarations tant que le drame humanitaire persistera. Ils le seront si la guerre s'arrête, si le processus de paix est remis sur les rails avec une perspective pour la création d'un État palestinien. Des pays comme l'Arabie saoudite, l'Indonésie et la Malaisie ont manifesté leur prédisposition à normaliser leurs relations avec Tel Aviv. Mais Donald Trump ne laissera personne d'autre avoir la main sur l'extension des accords d'Abraham qu'il a initié lors de son premier mandat. Allons creuser peut-être cette info que les pays arabes, pour reprendre l'expression, se désolidarisent de plus en plus du Hamas, qui est en soi une avancée. Vous trouvez un truc en deux secondes. Voilà, Radio France parle d'une déclaration historique. Et inédite. Regardez, je ne me trompe pas. Hein. 17 pays, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Égypte, ont appelé mardi, là. Je vérifie la date. Ouais. Mardi, le Hamas à remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Une décision qualifiée d'historique et d'inédite par la France. C'est une déclaration qui entrera dans l'histoire. 17 pays appellent le Hamas à déposer les armes. Parmi ces 17 pays, vous avez le Qatar, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et il demande au Hamas de remettre tout son arsenal à l'autorité palestinienne. Pour la première fois aussi, ces pays condamnent publiquement l'attaque sans précédent du Hamas du 7 octobre 2023. Voilà. Déclaration saluée par le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. Les pays arabes, les pays de la région du Proche et du Moyen-Orient, pour la première fois, condamnent le Hamas, condamnent le 7 octobre, appellent au désarmement du Hamas, appellent à son exclusion de toute forme de participation à la gouvernance de la Palestine.
et expriment de manière claire leur intention d'avoir à l'avenir des relations normalisées avec Israël. Alors, là encore, ça n'est pas suffisant pour amener la paix dans la région, mais ça aussi, c'est un signe positif. Voilà, vers la solution des deux États, quoi. Même si le principal obstacle, il est toujours présent, le principal obstacle étant, vous le savez, le gouvernement Netanyahou. Merci Gogos pour le deuxième mois. Merci pour ton soutien. Quand j'entends la match, j'ai toujours en tête le sketch de Malik, me dit Dinx. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Excellent clip, effectivement. Je ne m'en lasse pas. Le Hamas ne souhaite pas non plus les deux États, je ne crois pas, Léo. Ouais, je ne crois pas que le Hamas souhaite la solution des deux États. Je crois que le Hamas, dans ses statuts, nie l'existence de l'État d'Israël. Je vérifie quand même cette affirmation, parce que je ne veux pas dire de conneries. Position sur les deux États. Pour le Hamas, je pense qu'il n'y a qu'un seul État, c'est l'État palestinien. Attends, je vérifie quand même ce truc. J'essaie de trouver ça. Sur les ruines du 7 octobre, un ovni. Alors, c'est une interprétation, mais voilà. Il y a eu quelques déclarations après les attentats du Hamas qui laisseraient, en provenance de responsables du Hamas, qui laisseraient penser que le Hamas, en manifestant pour la première fois, serait d'accord pour une solution à deux États. Voilà. Ce qui impliquerait que c'est qu'avant, non, quoi. Donc là, on a la page wiki rappelle qu'effectivement le Hamas ne reconnaît pas Israël. Bon, a priori, c'est non. Voilà. Je pense que tu peux creuser cette histoire, mais je pense pas que le Hamas, a priori, soit un fervent partisan de cette solution. Le Hamas qui veut une Palestine de la mer au Jourdain. Oui, donc ça nie l'existence. Oui, c'est ça. Ça nie l'existence d'Israël. C'est le positionnement actuel du Hamas. Ouais. Merci Captain pour ton message, c'est adorable. Israël ne vaut pas non plus ces deux États. Le gouvernement israélien actuel, oui. Après, il y a des gens, il y a des Israéliens, y compris des responsables politiques israéliens, y compris des anciens dirigeants israéliens, je pense à Ehud Olmert, par exemple, le dirigeant travailliste, qui sont des gens qui sont pour la solution des deux États. Ce n'est pas Israël qui ne veut pas des deux États, c'est le gouvernement israélien actuel, largement dominé par l'extrême droite. Extrême droite israélienne qui n'a jamais voulu la paix, de toute façon. Voilà. Et très bonne question de Le Bilcus. S'il y a une solution des deux États qui se met en place, on se base sur quelle frontière? Très bonne question. Bon, ben ça, ce serait. Si un jour, on sent que la fin du conflit arrive fort, oula, Tabs. Si un jour, on en est à discuter de ça. Si un jour on en est à discuter dans ce chat de quelles seraient les frontières de ces deux États, et notamment de l'État palestinien.
Waouh !
Ça veut dire qu'on aurait énormément avancé, quoi. Il n'empêche qu'il y a encore quelques semaines, on se disait ici qu'il n'y avait aucun espoir à ce que la situation s'apaise, tant Israël semblait totalement insensible aux quelques pressions internationales et avait durci énormément sa position vis-à-vis du peuple palestinien. Et force est de constater que, internationalement, diplomatiquement, il se passe des choses ici insuffisantes, faiblardes, parcellaires, tout ce que vous voulez, mais des choses qui... Alors, je ne veux pas prononcer cette phrase qui permette l'espoir, mais change le champ des possibles, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on va continuer à suivre cette actualité dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà. Personnellement, ça fait 30 ans que je suis cette actualité. On n'est pas quelques mois près, quoi. Merci Mado Club pour le raid, c'est adorable. Il y a un début de quelque chose, comme dit Amixfia. Voilà. Rappelons qu'il y a les élections législatives qui auront lieu en Israël en 2026, l'année prochaine, sauf élections anticipées décidées par Netanyahou. Voilà, et que tout peut être. Les cartes politiques d'Israël peuvent être rebattues à cette occasion-là. Quoi. Quelque part, la solution et le retour de la paix dans la région, elles sont aussi dans les mains, des électeurs israéliens. Et des politiques israéliens, parce que comme c'est un régime parlementaire avec proportionnel intégral, il est très très dur d'avoir, encore plus difficile que dans un régime comme le nôtre, d'avoir une majorité absolue ou relative à l'Assemblée. Donc il y a énormément de coalitions. L'histoire politique d'Israël, c'est des coalitions qui se font et qui se défont avec une vraie instabilité gouvernementale. Et donc il y a le vote des Israéliens et après il y a les accords entre partis en s'alliant avec tel ou tel. C'est comme ça que Netanyahou s'est allié avec l'extrême droite israélienne pour arriver au pouvoir et mener la politique que l'on sait. Donc c'est deux choses. C'est le vote des Israéliens et après ce qu'en font les partis. C'est l'un des défauts des régimes parlementaires un peu purs, quoi, un peu comme Israël, quoi. Avec proportionnel intégral. Bon bah nous en France on est champions parce qu'on a un régime politique avec un scrutin majoritaire. Qui devrait empêcher ça. Et en fait, on a réussi à avoir un système qui est, entre guillemets, pardon pour le raccourci, Mario Kart, pas très démocratique, c'est-à-dire avec une prime aux gagnants qui empêche les plus petits partis de monter. Voilà. Et donc, dans un souci d'efficacité dans l'esprit du constituant de 1958. Et on a un régime qui se veut comme ça très efficace pour éviter les errements de la 3e et 4e République. Et on a réussi à créer quand même un Parlement totalement explosé avec une impossibilité d'avoir une majorité absolue ou relative forte à la lumière de l'évolution du paysage politique français ces dernières années. Donc là c'est encore un peu plus compliqué en France. Mais on aura l'occasion d'en parler, notamment quand je me présenterai à la présidentielle en 2027. Qu'est-ce qu'on a après ? La mode. On va parler de mode. On va parler de mode, on va pas parler de défilé, d'élégance, de catwalk, c'est comme ça qu'on parle ? Non, on va parler des coulisses bien sombres du modèle économique de Shein, les vêtements pas chers, là. C'est dans l'Humanité ce matin. C'est un sub-goal la présidentielle ? Ouais. Quoique, vous savez, on avait prévu de mettre en sub-goal, en donation goal, aux The Event, comme l'an dernier, à 1 million d'euros. Let's go ! Ma candidature à la présidentielle, mais dans un événement qui vient de dire qu'il ne voulait pas en ses rangs d'élus, de gens qui avaient des mandats, est-ce que c'est pas une provocation malheureuse et maladroite que de mettre en The Nation Goal, une élection présidentielle 2027, dans un événement qui vient de dire qu'elle ne voulait pas d'élu politique. Alors, je me torture un peu la tête, mais... Non, c'est le fun. Non, parce que tu es dans leur team. Non, parce que tu seras uniquement wannabe élu. Sinon, ah oui, je peux faire à 1 million, je me présente, et à 2 millions, j'annule ma candidature. Ouais, remarque, je l'avais fait l'an dernier, ça n'avait pas gêné. Ouais. C'est écrit passé et présent et pas futur. Ouais, c'est pas faux. Ce qui est marrant, c'est de Nation Goal à 1 million. Hélène qui a fait un don à 1 million. Ah non, Hélène ne veut pas que je sois élu président. Après, c'est une redite de l'an dernier, donc il y a une cohérence. On va voir. 1 million, tu te présentes. 1 million, 1 euro, tu annules. Trop bien. Combien la cagnotte l'an dernier? On a fait 460 000 euros l'an dernier, je crois. Shein. Bon, Shein, vous connaissez, les vêtements pas chers, voilà, qui viennent de l'autre bout de la terre, le coût écologique de ce truc gigantesque, et le coût social aussi, c'est ce que dénonce l'humanité dans ce dossier, ce jeudi, les sacrifiés du modèle Shein. Le géant chinois de la fast fashion cache derrière des prix imbattables une exploitation intensive des travailleurs et des travailleuses. Une enquête d'Action Aid France en partenariat avec China Labor Watch. Je ne sais pas s'il y a des gens qui achètent du Shein dans le chat. Voilà. 7000 nouveaux articles mis en ligne chaque jour. Quoi ? 7000 nouveaux articles mis en ligne ? Jusqu'à 50 000 en pic de production. Shein, le géant chinois de la fast fashion, incarne un modèle économique ultra bon marché, fondé sur la production en flux tendu et la consommation de masse. Mais derrière cette façade de modernité et de consommation effervescente, se cache une sombre réalité. L'enquête menée par Action Aid France, en partenariat avec l'ONG américaine China Labor Watch, révèle les mécanismes d'un système fondé sur l'exploitation des travailleurs et des travailleuses. L'investigation est réalisée dans la métropole de Guangzhou, notamment dans le village urbain de Kangol, où se concentrent plus de 100 000 habitants sur à peine 1 km². Elle révèle un mode de production décentralisé, reposant sur des ateliers informels où les conditions de travail sont déplorables. Ces villages, autrefois ruraux et désormais intégrés à l'urbanisation rapide de la ville, accueillent une main-d'œuvre migrante, sous-payée et surexploitée. Shein s'appuie sur une production fragmentée. Je pense que vous connaissez le modèle économique. Pilotée par les données des consommateurs et l'IA. Selon les Amis de la Terre, la plateforme affiche plus de 470 000 références. Ceux qui s'inquiètent des liens entre China Labor Watch et la CIA, je vous rappelle que l'Humanité est un journal communiste. Et si l'Humanité, mon cher journal communiste, accepte de citer une ONG qui serait influencée par la CIA américaine, c'est que ça doit aller quand même. Je continue donc. Shein s'appuie sur une production fragmentée pilotée par les données des consommateurs et l'intelligence artificielle. Selon les Amis de la Terre, la plateforme affiche plus de 470 000 références. L'entreprise expédie chaque commande directement depuis la Chine, en contournant les circuits classiques, en tirant profit des exemptions de droits de douane pour les colis de faible valeur. D'ailleurs, en France, il y a un débat sur le fait de mettre une taxe sur ces colis de faible valeur, justement. Ce modèle réduit les invendus, les coûts de stockage. Hein, c'est un flux tendu, quoi. Mais le renouvellement permanent de l'offre crée une obsolescence émotionnelle, souligne la chargée de plaidoyer chez Action Aid France. Les ouvriers travaillent dans des bâtiments vétustes qui abritent des ateliers de production, souvent installés dans les appartements reconvertis. La sécurité incendie est inexistante, tout comme les issues de secours, et les matériaux inflammables sont stockés sans précaution. Le risque d'accident est omniprésent. L'absence de contrat, de protection sociale, d'assurance maladie place ces ouvriers dans une situation de vulnérabilité extrême. En période de forte demande, les journées dépassent les 12 heures, parfois 7 jours sur 7, pour des salaires en dessous du seuil de subsistance. En période creuse, les ouvriers sont laissés sur le carreau sans contrat ni indemnité. Sympa. Si Shane a déjà été épinglé par l'ONG publique AI en 2021, cette nouvelle enquête insiste sur une organisation du travail ultra fragmentée, basée sur une sous-traitance en cascade échappant à toute régulation. Il n'y a pas vraiment de salariés en fait. C'est que la sous-traitance, quoi. Voilà. Le rêve capitaliste. Et rappelons que la Chine est un système politique communiste et économique capitaliste. C'est un petit peu particulier. Ce système pousse la flexibilité à un niveau extrême et par nature échappe à toute responsabilité, affirme la responsable de l'ONG. Les cadences infernales, la rémunération à la pièce, l'absence de régulation plongent les ouvriers dans une spirale d'exploitation. Les femmes sont doublement victimes, elles sont cantonnées à des sous-tâches sous-valorisées, trient des tissus aux finitions et souvent moins payées que leurs homologues masculins. Dans de nombreux cas, elles sont obligées de travailler avec leurs enfants, exposées au risque des machines. Parfois, leur travail n'est même pas reconnu ni rémunéré individuellement, en particulier lorsqu'elles sont recrutées avec leur conjoint. On nous a rapporté que lorsqu'un homme est embauché, on lui demande de faire venir sa femme, mais seul l'homme est payé. Cette configuration expose aussi les ouvrières aux violences sexistes et sexuelles. Le manque total de mécanismes de protection rend les femmes particulièrement vulnérables aux abus. Action Aid appelle le mouvement féministe à s'emparer du problème. Les multinationales sont des terrains de lutte féministe à part entière. L'enquête pointe aussi un lien préoccupant entre Shein et le travail forcé des Ouïghours. En 2023, la marque a signé un accord stratégique avec le parc industriel de Guangqing. Pardon pour la prononciation. Guangjing, au Guangdong, qui joue un rôle clé dans l'intégration dans la chaîne textile chinoise du coton du Xinjiang, région où des violations des droits humains sont massives. Plusieurs entreprises de ce parc sont originaires du Xinjiang et certaines ont été sanctionnées par les États-Unis pour recours avéré au travail forcé. Et ce n'est pas la législation française qui va permettre de lutter contre ces abus. La loi censée encadrer la fast fashion adoptée le 10 juin par le Sénat, dont nous avons parlé, n'est qu'une version édulcorée du texte initial. Sous pression des lobbies industriels, la loi s'est réduite à cibler les plateformes comme Shein ou Temu en excluant les grandes enseignes européennes, pourtant tout aussi coupables. Que certains me disent aussi « Eh, les grandes enseignes européennes, là !» Ben, manifestement, elles pratiquent aussi ce genre d'abus. En réduisant le problème à une menace chinoise, le texte détourne le regard d'un système mondialisé qui valorise le profit de masse, l'exploitation humaine, la répression syndicale, la marchandisation des ressources du vivant, regrette la représentante de l'ONG. Cette loi ne s'attaque pas aux causes structurelles du problème. Si ce détaillant chinois, Shein, n'est pas un cas isolé dans l'industrie de la fast fashion, son ascension fulgurante illustre les dérives d'un système économique qui repose sur la précarité des travailleurs et l'épuisement des ressources naturelles. En l'absence de régulation stricte, le modèle Shein continuera de prospérer au prix de souffrances humaines et de désastres écologiques. Les conclusions de l'enquête de ces ONG exigent une transparence totale des chaînes d'approvisionnement et de repenser le modèle économique de la mode en faveur d'un système plus éthique et plus durable. Notre volonté est de viser moins la marque Shein que le modèle qu'il représente, assure la responsable de l'ONG, ce n'est pas une anomalie, mais l'enfant d'un système insoutenable. Voilà. Moi, ce qui me manque dans l'actualité là, ces derniers mois, c'est j'entends les ONG qui me disent qu'il y a des marques de textiles européennes qui ne valent pas beaucoup mieux. Voilà. Je n'ai pas vu beaucoup de dossiers, pas beaucoup d'articles sur ce sujet. Alors, régulièrement, des trucs sur Shein, Temu, il y en a. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien lire aussi des articles et des dossiers sur les grandes marques de textiles européennes qui ne feraient pas beaucoup mieux. Donc voilà, moi j'attends ces articles et quand je les verrai, je vous les lirai aussi. Voilà. Peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour donner des conseils, mais peut-être levons le pied peut-être sur notre consommation pour certains effrénés de textiles. Est-ce qu'on a besoin de changer en permanence sa garde-robe ou souvent, voilà. Bon, je ne sais pas. Qui suis-je pour donner ces conseils, mais Christophe Castaner n'a pas été nommé conseiller auprès de Shein. Si, je crois bien, oui. MJ Pouic nous dit on a fabriqué assez de vêtements pour habiller l'humanité sur plusieurs générations. Achetons d'occasion. Les slips, ça se retourne les gens, me dit Telos. Perso, je garde mes fringues suffisamment pour qu'ils reviennent à la mode une ou deux décennies plus tard, me dit Tabs. Wedderge, ce n'est pas avec une action individuelle qu'on réglera un problème collectif, Sam. Bah, c'est une partie du problème. Ouais. Je ne suis pas communiste, mais personnellement, mon skin de base, c'est un jean et un t-shirt blanc. Et Hogan, tu ne le sais pas, mais tu es communiste. J'achète un t-shirt par an, celui du The Event. Tu régales, Océane. Bon, les amis, c'est un stream assez court hein, ce matin, vous avez vu. Bon, il y a des jours comme ça où je vous mets un peu moins d'articles de côté. Voilà. Les enfants ne sont pas passés en plus pour la chronique ce matin parce qu'il y avait un petit projet plage. Voilà. Moi, je vais en profiter pour rejoindre mon amoureuse et les enfants. Voilà. Je vais lui dire... Elle va être contente. Je suis en train de finir mon stream, virgule. Quand est-ce que vous allez manger pour interrogation ? Ce ne sont pas des messages enregistrés, ce ne sont pas des messages audio, arrêtez-vous foutre de ma gueule, ce sont des SMS. J'envoie des SMS à mon amoureuse que je dicte à l'iPhone. Voilà. N'oubliez pas, entre 13h et 13h30, on va faire large. Ne ratez pas, ça va durer un peu plus d'une minute. On a Léon Marchand, finale championnat du monde. France 3 ! Si elle te répond 30 minutes, tu as le temps de lancer Valo. C'est pas faux, j'attends la réponse de mon amoureuse. Merci Lixus pour le Prime. Je sais pas si je t'en remercie. Les SMS, j'adore, faut en profiter, dans 5 ans, il n'y en aura plus. C'est vrai. Tu nous fais les commentaires de la finale ? Hop, 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 oh que non. Laissons ça à des gens qui connaissent. Un petit deathmatch ? Non, bah non, non, elle va être super contente, Hélène, que je la rejoigne tôt. Merci en tout cas pour ce matin, c'était un plaisir. On se retrouve... Merci Guillaume. Non, on m'a dit France 3. Camille, tout le monde m'a dit France 3 tout à l'heure. Enfin, le chat m'a dit France 3 à donf. Alors, je sais pas si le chat s'est trompé, mais les gens disent France 3 à mort. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est le dernier stream. Ce sera sans doute le dernier stream. Dernière revue de presse depuis la Corse. Ouais. Après, retour à Paris. Ça me nique le moral d'une puissance. Je suis hyper triste. J'ai passé un trop bon mois ici avec vous le matin, avec la famille, voilà. Et ça me, moi, j'aime pas trop les vacances d'habitude, je m'ennuie, mais là je me suis pas ennuyé et ça me mine le moral de revenir à Paris. Donc il va falloir streamer fort en août pour se changer les idées. Il y aura de la revue de presse le matin, il y aura du gaming. Les enfants seront chez leur mamie adorée, donc ça va streamer à mort. Et il faut que je me remette à bosser. Pouf, ça me stresse. Il faut que je bosse sur la programmation de Samplay saison 3. On va essayer de faire une saison 3 de Samplay. Il faut que je trouve des invités. Il faut que j'envoie des mails. Tout ça. Il faut que je trouve des sponsors. Il faut que je prépare les donation goals du The Event. Il faut que je trouve des trucs à faire aussi avec les gens sur place pour que ce soit sympa. Il faut que je prépare la rentrée de MVP. Enfin, plein de trucs. J'ai pas envie de bosser. J'ai la flemme, j'ai envie de dormir, j'ai envie de regarder des séries et de courir et de manger des chocolats dans le désordre. J'ai pas envie de bosser. J'ai pas envie de taffer, j'ai envie de glander, j'ai envie de partir en retraite, j'ai envie de boire des mojitos en regardant le soleil se coucher. Quoi. C'est quand la retraite ? Oh, mais vite, vite, vite ! Personne te force. Bah, si, il faut. Il faut. qui est en live. On va aller raid à un autre streamer, une autre streameuse.
Qui est en live? Oh, attends.
Bah, les amis. On vient de lire un dossier dans l'Humanité, ok, sur Shane. Là. Eh ben, il y a l'Humanité qui est en live parce que l'Huma est un des rares médias qui a bien compris Twitch et qui a lancé une chaîne sympa comme celle de Libération d'ailleurs, avec des streams réguliers. Ils streament chaque semaine. Voilà, c'est du bon boulot. Donc, allons voir les amis de l'Humanité. Ça parle de la loi du plomb notamment. Je vois que de titre, ils reçoivent un agriculteur bio. Ils vont parler de Darmanin aussi et des prisons de haute sécurité. Voilà. Comment ça, ils coupent leur stream ? C'est terminé ?
Encore merci pour le stream.
Ah merde !
J'ai cru voir dans le chat Yanis qui nous dit qu'on va raid le fils de pub. Évidemment, le fils de pub qu'on connaît bien, qui est le monteur de Bolche Geek. Pour certains de ses formats, pas pour...
Ah, il cut ! Ouais, vous avez raison, il cut. Bon, bah tant pis pour le raid, pour l'humain. Bon, pour les raids, alors. Tant pis pour leur gueule ! Attends. Donc les appareils, les amis, là. Ah, ils cutent pas, eux.
Exception près. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais perso, je trouve qu'à une exception près, les Battlefield ont toujours eu un mode solo.
Ok, il y a les numériques. Les numériques, bande de passionnés, là. Qui parlent notamment de l'actualité du jeu vidéo. Voilà, je crois qu'ils ont une matinale, notamment. Ils sont trois, ils ont l'air trop sympathiques, là. Ça parle de jeux vidéo. Jeudi Gaming, Sony Attack Tencent, Killing Floor 3, Ninja Gaiden, Ragebound. Let's go! C'est très bon, ça. C'est du très bon, ça. Let's go. Les numériques, c'est parti. Les numériques. Merci, les amis. Merci encore. Je vous dis à demain matin ou plus tard. À moins que ça relance du Valo de façon sauvage. Et encore merci pour tout, pour la force que vous donnez aux streamers et aux streameuses. Des bisous. Ça part dans 5 secondes. Let's go.
Je suis confiant, mais oui, Poulpator, absolument, absolument. Non, je suis confiant parce que, en fait, le gars qui chapote s'appelle Vince Zampella et que ce mec-là, il sait faire il sait, en tout cas, diriger des solos de jeux vidéo. Honnêtement, c'est lui qui a amené le côté avec Jason West à l'époque. Hein, c'est lui qui a amené dans Medal of Honor, Débarquement Allé, ce genre de choses-là, les solos qu'on connaît. C'est lui qui a créé Call of Duty 1, donc Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty Modern Warfare 2 à l'époque, avec des solos qui sont très cool. Oh, Samuel Etienne, salut!